Donc voilà, l'enregistrement a démarré. Il y a la petite lumière rouge qui apparaît en haut du salon vocal. Donc bienvenue à tout le monde. Bienvenue pour ce 20e épisode de Radio Pléiade. Nous sommes donc le 11 octobre 2021. Il est 21h heure de Paris et 15h heure de Québec. Donc nous allons parler ce soir d'expérience d'abducté. Et notre invité principal, et on va vous expliquer ce que c'est qu'un abducté ou une abductée, au cas où vous ne le sauriez pas. Et notre invité donc de ce soir, c'est Louise Dionne. Donc vas-y, tu peux activer ton micro, Louise. Bonsoir, Louise.
Oui, bonsoir à tous.
Donc bienvenue.
Merci.
Et puis c'est chouette parce que tu vas nous amener du dépaysement avec ton bel accent québécois. Alors nous, on a un accent français sans doute pour vous. Vous n'avez pas d'accent, c'est nous qui avons un accent sans doute. Mais en tout cas, on aime bien l'accent québécois.
Quoi qu'il en soit, l'important, c'est de se comprendre.
Exactement. Et nous allons nous comprendre ce soir. Donc voilà. Donc bienvenue à tous. Pour l'instant, on est une soixantaine de personnes sur le salon vocal. Donc cette émission est enregistrée. Donc on va laisser Louise Dionne se présenter et puis nous raconter son expérience. Vous allez voir, elle est très, très intéressante. Et puis on introduira, comme d'habitude, hein, c'est l'objectif de ces Radio Pléiades, de l'interactivité pour que les gens puissent témoigner, pourquoi pas aussi, de leur propre expérience ou poser des questions à Louise. Donc voilà, on est parti pour une soirée sur le thème des abductions. Alors vas-y Louise, dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens et après, justement, ces expériences extraordinaires que tu as vécues.
Bon, merci de me laisser l'occasion de parler à tous et chacun. Dans un premier temps, j'aimerais saluer tous les gens que je connais, autant dans la région de Strasbourg, en France, que Toulouse, que Paris. Disons, à plusieurs endroits, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens fantastiques lors de mes différents séjours en France. Donc, je tenais à le souligner. En second, j'aimerais remercier Hervé de me laisser la chance de m'exprimer. C'est un contact via Cyril Thévenard, des soupers ou plutôt des repas ufologiques de Nantes. Donc, je tenais à le souligner tout simplement au départ.
Ben nous, on est très contents que tu sois là, hein. Nous, on tient à te remercier aussi parce que voilà, c'est vraiment c'est pas facile forcément d'avoir, je dirais, une personne qui est prête à témoigner publiquement de son expérience. Donc, c'est vraiment, voilà, ça a vraiment de la valeur et ça peut inciter des gens aussi à réveiller leur mémoire, comme tu vas nous raconter ce soir.
Exactement. Donc, effectivement, c'est quelque chose que c'est bien que tu le soulignes. Pour la raison est simple, c'est que moi, j'ai été quand même, on parle de 33 ans avant d'en parler. Ça a été très long, car souvent, suite à une expérience de ce type, eh bien, on ne vous prend plus au sérieux. On perd beaucoup de crédibilité. Les gens sont portés à juger de manière rapide. Pas nécessairement efficace, mais rapide. Et puis, donc, aussi, je tiens à souligner que je ne suis pas une professionnelle, donc je n'ai rien à vendre sur le net. Et mon expérience est vraiment empirique, donc ne concerne que moi. J'étais accompagné au moment où l'expérience est arrivée, et puis, malheureusement, cet individu est décédé depuis déjà, mon Dieu, pratiquement 40 ans. 30 quelques années, disons, tout près de 40 ans. Donc, moi, je vis au Québec, au Canada, depuis ma tendre enfance. Je ne suis plus jeune, j'ai maintenant 61 années, bien sonné. Par contre, en relative bonne forme, j'ai eu la chance de faire des études universitaires qui m'ont amené à un certain sommet au niveau de ma carrière personnelle. D'ailleurs, j'ai changé à deux reprises de carrière. Et maintenant, ben, je suis retraité depuis déjà 2 ans. Et puis, je vous avoue que je n'ai jamais été aussi occupé. Je tenais à le préciser.
Peut-être parce que tu es
Mais...
invité justement à droite et à gauche pour parler de ton expérience.
Nullement. Non, c'est simplement que j'ai redécouvert mes enfants. J'ai 3 enfants, 3 enfants fantastiques. Que j'ai eu une avant l'expérience et deux qui ont suivi l'expérience en question. Et puis, bon, c'est sûr qu'ils ont quand même des déboires, mais je suis là maintenant pour les épauler. Et puis, bon, disons que, outre ce qui affecte actuellement la planète de cette pandémie, là, je pense que je suis quand même en très bonne forme. Moi, je n'ai pas été impacté personnellement, autre que de perdre nos libertés individuelles, comme je pense c'est un peu le cas de tous, y compris la France. Donc, tu me dis, Hervé, quand tu veux que je démarre?
Oh ben là, on a démarré de toute façon, donc vas-y, hein, si, pour les présentations, si tu estimes que ça suffit, tu peux passer à ton expérience. Alors, j'ai vu que donc Cyril nous a rejoint. Donc, juste pour information, Cyril, en fait, on a fait une émission avec Cyril sur l'ufologie et les reptiliens. Donc, c'était il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus exactement. Et en fait, Louise est un contact de Cyril, en fait. Donc, puisque voilà, Cyril est un expert en ufologie et c'est lui qui m'a mis en relation avec Louise. Et donc, du coup, j'en profite pour le remercier au passage. Voilà, bonsoir Cyril, bienvenue.
Bonsoir Hervé. Bonsoir Louise. Ça me fait très plaisir de te revoir au téléphone, Louise.
Mais moi aussi, Cyril.
C'est un réel plaisir. On avait fait une super émission, enfin on avait fait un super repas ufologique avec toi. Et je te remercie encore de la confiance que tu nous as donnée, parce que tu as été très loin dans le déroulé de ton expérience. Et c'était très courageux de ta part, et je te remercie encore.
Ça me fait plaisir d'échanger avec vous tous.
Ben, j'espère qu'on va aller aussi loin ce soir que ce que tu as été avec Cyril. Ça nous met en appétit, justement. Donc, le déroulé de ton expérience, allons-y, on attend, on est impatients de connaître ton expérience.
Bon, d'accord. Donc, on démarre. Le tout s'est passé la soirée du 8 décembre 1980. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette date, pour moi, n'avait pas de sens au départ. Cela m'a pris 33 ans pour apprendre que cette journée a été une journée quand même mémorable dans le cas où M. John Lennon a été assassiné à New York. Et c'est comme ça que j'ai pu faire le lien entre le 8 décembre, pas pour l'année, mais au niveau de la date exacte. Car cet événement fait partie de mon expérience en tant que telle. Donc, cette journée, j'étais à ce moment lors d'un séjour en Floride, aux États-Unis, pour une durée de 3 mois. J'avais fait une tentative d'évasion du Québec. C'est une blague, là, mais je tenais à aller vivre dans le sud parce qu'on gèle vraiment littéralement au Québec lorsque les températures deviennent sous zéro. Donc, après 3 mois de séjour là-bas, on a dû revenir au Québec pour continuer notre vie commune, moi et Richard. Et puis, lors du retour, on avait une voiture qui était un peu abîmée, si on veut. Ce n'était pas une voiture neuve, donc une automobile ou une caisse, comme vous dites en France. Je ne me souviens pas exactement des bons termes. Et puis, au moment où on arrivait dans l'État de New York, qui est la dernière État avant de toucher le Canada, eh bien, tout a commencé à ce moment-là. Donc là, on parle toujours de la soirée du 8 décembre 1980. Nous avions un problème d'ordre mécanique avec le véhicule. C'est que l'auto en question, au niveau du réservoir à essence, il y avait un coulage. On perdait de l'essence. Donc, on devait, à tous les 100 miles ou 160 km, tenir compte de ce fait et d'ajouter seulement 10 $ d'essence pour nous permettre de cheminer jusqu'au prochain poste d'essence. Donc, on avait quitté, disons, je vous dirais, autour de 1 h l'après-midi, on avait quitté New York City, la ville de New York, pour le nord, vers Albany, qui est à mi-chemin entre Montréal et puis New York. Et puis, au bout de 100 miles, donc 160 km, on a dû sortir de l'autoroute qui nous amenait vers le nord à une place qui s'appelait Poughkeepsie. C'est une petite ville qui est située le long de l'autoroute 87. Et puis, donc, suite à notre sortie d'autoroute, on a commencé à chercher un poste d'essence. Déjà, on était avancé en heure. On était peut-être autour de 4 heures l'après-midi ou 16 heures. Et puis, chemin faisant, nous n'avons pas trouvé de poste d'essence. C'est moi qui étais au volant de l'automobile. C'est une Cadillac 1973, si je me souviens bien. Donc, c'était
verte.
Une grosse voiture.
Une Cadillac
oui,
verte.
Verte. Ça, hein? Oui, oui, effectivement. Oui, je m'en souviendrai toujours. Une espèce de vert lime. Et puis, Richard, il prenait place à mes côtés. Et c'est sûr, bon, moi, ma fille étant déjeuner, elle était dans un petit landau à l'arrière, sur le siège arrière. Donc, chemin faisant, on s'est retrouvé sur une route qui s'appelle la route 22. C'est une route qui fait nord-sud dans l'État de New York, qui va croiser éventuellement la 87. Donc, nous sommes sur la route en question. Il était autour de 16h30 l'après-midi. On est en décembre, donc il fait déjà noir. Là. C'est à cette heure, là, à cause de l'heure, fait en sorte que, bon, c'est noir. Hein. C'est comme nuit. C'est comme une nuit dense, si on veut. Et puis, à ce moment-là, je suis sur la route. Comme je vous dis, chemin faisant. Et là, je croise des autos qui vont en sens inverse. C'est une petite route. Une route qu'on croise, là, où est-ce que seulement deux voies de circulation pour aller au nord et une au sud. Et là, je croise des autos de manière régulière. Et puis, tout à coup, au loin, je vois comme dans une courbe, j'imaginais que c'était un camion. Vous savez, un camion remorque, parce qu'il y avait les feux de gabarit qui étaient allumés. Je les voyais au loin. Et puis donc, pour moi, c'était une remorque qui s'en venait dans ma direction, dans la courbe. Et puis, dès que les autos nous ont croisés, là, je me suis rapproché de la courbe en question et du camion, selon moi, qui était un camion en question. Et je me suis aperçu à mon grand effroi que ce n'était pas un camion, que c'était situé au-dessus de la route, peut-être, je vous dirais, entre 20 et 30 mètres au-dessus de la route. Et puis, c'était comme couleur métallique. C'est, mes phares, d'ailleurs, reflétaient, je pense, un peu, j'imagine, sur l'objet en question. À ce moment, j'ai appuyé sur les freins. Et puis, je me souviens que mes cheveux sur la tête étaient droits, droits, droits. C'est une impression que j'ai eue. Je n'avais jamais eu cette impression-là. J'avais 20 ans à ce moment-là, là, parce qu'en 80, j'avais 20 ans. Et mes cheveux sont venus droits. Et j'ai appuyé sur les freins. Et en appuyant sur les freins, je me souviens d'avoir mis le sélecteur sur recul, pour reculons. Et j'ai frappé Richard lui disant « Regarde, regarde, regarde! » Parce que je voyais quelque chose qui était vraiment... La première fois qu'on voit ça, c'est spécial comme impression, hein? Je peux vous dire ça. Et puis là, le temps de regarder Richard, d'essayer de l'éveiller, eh bien, c'était disparu. Ça avait complètement disparu. Et pourtant, c'est quelque chose qui était quand même, qui prenait beaucoup de place sur la route. Là, c'était au-dessus de la route, comme je vous dis. Il y avait même des phares sous l'appareil en question qui éclairaient toute la route. Donc, c'était vraiment c'était impressionnant. C'était vraiment très lumineux. Et puis, là, lui, il n'a rien vu, bien sûr. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, mon Dieu, est-ce que j'ai rêvé? Finalement, j'ai redémarré. Chemin faisant, c'est pour environ une dizaine de minutes. Tout allait bien. Et tout à coup, c'est Richard qui me dit, en se penchant vers l'avant, vers le pare-brise, me dit, est-ce que c'est ça que tu as vu? C'est du côté gauche, ça nous survolait, ou à la cime des arbres, où on a beaucoup de conifères, de sapins, et ainsi de suite. Donc, ça survolait ces arbres-là en question, et ça semblait aller dans le même sens que nous. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, oh, mon Dieu, oui, oui, c'est ça que j'ai vu, ça, c'était vraiment similaire. Et puis, là, je devais regarder où j'allais avec mon véhicule, et puis, tout à coup, peu de temps après, l'auto s'est arrêtée. Le moteur n'a plus fonctionné du tout, aucune réponse. Et puis, les phares se sont éteints. L'auto est devenue comme morte. Et puis, j'ai dû tenir le volant à deux mains parce que la servo-direction sur une grosse Cadillac, lorsque le moteur s'arrête, on est un peu comme agrippé au volant pour le contenir. Donc, je me suis déplacé sur le bord de la route. Et là, l'auto était complètement arrêtée. Moi, j'avais une envie d'aller aux toilettes que je n'avais pas pu satisfaire avant. Donc, j'ai essayé d'aller à l'arrière de l'auto pendant que lui a débarqué et puis a essayé de voir avec qu'est-ce qui pouvait arriver avec l'auto. Et là, je me souviens, j'avais entendu un bruit de pas très, très, très rapide. Un petit bruit de pas comme un peu un galop cheval ou de chevreuil ou un petit animal qui courait de plus en plus vite vers nous. Donc là, j'ai pris peur, j'ai sauté à bord du véhicule, j'ai dit « Richard, embarque », et là, j'ai barré les portes, parce que j'avais peur, hein? On ne sait jamais qui peut venir comme ça. Et tout à coup, le toit est parti, tout seul, sans même que je touche à la clé ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai tout de suite démarré, et puis même j'ai fait tourner mes roues dans la gravelle, là, ça, je peux dire que je suis parti rapidement. Et j'ai roulé encore une fois une quinzaine de minutes, 10-15 minutes encore. C'est difficile à dire le temps exact, mais pour moi, ça a été une dizaine de minutes. Et là, tout à coup, les essuie-glaces ont cessé de fonctionner. Il s'est mis à pleuvoir, à boire debout, comme on dit, là, beaucoup, beaucoup de pluie. Et j'ai dû ouvrir la fenêtre, regarder à l'avant, et puis bon, j'avais la difficulté à être capable de voir le chemin, si on veut. Et peu de temps après, la pluie est arrêtée. Et puis, j'ai continué. J'ai réussi à continuer. Toujours dans l'espérance de rencontrer ma route 90, parce que selon ce qu'on regarde sur les cartes routières, on doit croiser une autoroute qui est SOS, qui va de Buffalo, New York, jusqu'à, je pense que c'est jusqu'à dans le Massachusetts. Je ne sais pas si elle se rend jusqu'à Boston, mais en tout cas, c'est SOS. Et puis, bon, je ne voyais pas l'autoroute en question. Et tout à coup, on a vu comme une autoroute qui passait sous la terre. Donc, il y avait des viaducs. Il y a eu un viaduc qui enjambait l'autoroute en question. Et l'autoroute était comme, si on veut, là, un peu comme à l'intérieur de la terre. Vous savez ce que je veux dire? Nous, on a un boulevard aussi à Montréal qui s'appelle boulevard des Carrés. Et puis, c'est sous la terre, mais c'est à ciel ouvert. Il y a seulement des viaducs qui croisent cette route. Donc, on passe par-dessus. Et là, je vois comme un petit restaurant qui est à droite, qui est comme les anciens drive-in américains qu'on voyait, là, où les gens vont... On voit souvent ça dans des films, là, où est-ce que c'est comme couleur métallique, et puis il y a des petits bancs ronds à l'intérieur. Donc... La seule chose qu'il y a à l'avant du restaurant, c'est une camionnette rouge des années 50. Donc, une espèce de petit pick-up ou panel, si on veut, une petite camionnette qui n'a pas de boîte à l'arrière. Donc, j'entre dans la place, c'est moi qui entre, et je veux demander ma route, parce qu'on veut quand même récupérer, nous, on veut retourner sur la route qui va nous amener à Montréal. Et il y a un homme qui est adossé, qui se trouve à être au comptoir, qui a les deux bras sur le comptoir, assez grand, et une dame qui est en train d'essuyer des pièces de vaisselle, des assiettes, des verres, des choses comme ça. Il était habillé un peu comme à l'époque des années 50, avec une petite coiffe là, sur la tête. Donc, elle ne parle pas. Moi, je lui dis en anglais, « Je cherche la route pour Montréal. » Et puis, ou Albany, je ne me souviens pas, un des deux que j'ai donné, mais c'est de toute façon sur le chemin du retour. Là, l'homme se retourne, me regarde. Il avait un teint livide un peu, pas de cheveux sur la tête. Et puis, il se lève, il me dit « Follow me ». Donc, suivez-moi. Bon, monsieur assez grand, assez imposant comme monsieur, mais comme je vous dis, moi, ce que j'ai remarqué de lui, je me souviens comme si c'était hier. Il n'avait pas de cheveux, il était chauve, et puis il avait un teint... un peu crémeux ou laiteux, là, vous savez, un peu comme les Asiatiques. Là, on voit souvent des visages un peu pâles. Là. Et puis là, lui, il sort à l'extérieur. Moi, je dis à Richard, j'ai dit, « Youpi, on a quelqu'un qui va nous amener à la bonne route, au bon chemin. » Le monsieur retourne, va dans le camion, va dans la petite camionnette, et là, repart, mais à sens inverse. Il repart sur la route d'où est-ce qu'on vient. J'ai trouvé ça très, très suspect. J'ai dit, voyons, je dis, il va pas du bon côté. Parce qu'on y venait de cet endroit-là. On, On ne voulait pas faire un retour sur le chemin d'avant. Et là, on s'aperçoit qu'en s'approchant de l'autoroute qu'on avait traversée juste avant, on s'aperçoit qu'il y a une entrée pour aller sur l'autoroute en question vers la direction ouest. Donc, le monsieur sort son bras du véhicule, il me fait signe avec la main en voulant dire « va, c'est là ». C'est la voie. Donc, mon Dieu, j'étais super content. Donc, je vais sur l'autoroute en question. Et à partir de ce moment, tout a changé. Dans le sens que ce qui m'est arrivé par la suite a été très, très marquant. Parce que on a roulé, chemin faisant, pendant environ 2 heures de temps, à rouler sur une autoroute, finalement, qui avait 2 voies d'un sens, 2 voies de l'autre, avec comme un parapet dans le centre, là, qui nous permettait quand même de voir s'il y avait de la circulation en sens inverse. Et on n'a croisé aucune voiture. J'ai vu aucune autre automobile que nous. Nous passions constamment sous des viaducs, environ, je ne sais pas combien de distance, peut-être un demi-kilomètre à chaque fois, 1 kilomètre, il y avait des viaducs, mais sans jamais aucune bretelle pour sortir ou pour entrer. Et il y avait aussi un éclairage un peu spécial, un éclairage comme aujourd'hui on voit sur les DEL, vous savez, c'est un éclairage qui est un peu bleuté, différent de l'éclairage traditionnel qu'on voit sur les routes. Et je ne pouvais pas distinguer où étaient les lumières. Donc, je continuais. Et à la radio, il n'y avait absolument rien. On avait une radio, un poste radio dans l'automobile. Et la seule chose qu'on entendait, c'est comme un grichement là, quand on voit qu'il n'y a pas de station. Donc, on a fait pendant 2 heures de temps. Durant ce temps-là, Richard, lui, constamment sommeillait. Il était toujours en train de sommeiller. Il était plus ou moins lucide, je peux dire. Je ne sais pas pourquoi il était fatigué comme ça. C'est vrai qu'on avait fait beaucoup de routes. Ça a un impact sur la santé physique. Et puis, tout à coup, au bout de 2 heures, eh bien, la radio revient. Et là, tout à coup, je vois comme une sortie, une bretelle qui indique la route 87 Nord, direction pour aller vers Albany et Montréal, et ainsi de suite. Donc, à ce moment, j'entends à la radio que, et c'est pour ça que je fais la référence à John Lennon, c'est que le 8 décembre 80, comme je vous dis, j'ai appris ça moi, 33 ans plus tard, je n'ai jamais su la date exacte, il a fallu que ce soit quelqu'un qui fasse les recherches pour moi, fait en sorte que, là, j'ai entendu, il était 19h15, je me souviens très bien sur ma montre, que John Lennon avait été assassiné près de chez lui dans Manhattan. J'ai été renversé, j'ai dit Richard, il y a des Beatles qui est décédé, c'est affreux. Ça m'a vraiment touché parce que j'étais fan des Beatles. Et puis, donc, c'est devenu, par la suite, après avoir entendu cette information-là, bien, je me suis occupé de retourner sur l'autoroute 87. Et puis, là, on est arrivé à la frontière du côté de la Colle. Ça, c'est la première frontière qu'on rencontre du côté québécois lorsqu'on est sur la 87 Nord. Et à la frontière, c'est une dame qui nous a reçu la douanière, nous demandant bon, où on avait été. Bon, et puis, bon, suite à la narration de ce qu'on avait fait, et puis là, j'ai remarqué sur l'horloge à l'arrière d'elle qu'il était 23 heures, quelque chose comme ça. Et là, je trouvais ça drôle qu'on ait pris tant de temps pour faire ce petit bout de chemin qui, normalement, aurait dû prendre 2 heures. Donc, là, je lui dis que nous allons coucher sur des amis et tout. Bon, on a fait un peu la causette. Par la suite, on est entré du côté québécois. Et là, j'ai mis la radio sur mon poste préféré qui était à l'époque CJMS 1280. Et là, tout à coup, j'entends que John Lennon a été assassiné. Il était peut-être 23h30, là. Et puis, que John Lennon a été assassiné. Bon. Là, je dis à Richard, un peu pour être ironique, je dis, bon, regarde, au Québec, on est toujours en retard sur les autres. Hein. Ça fait plusieurs. Donc, c'était comme un fait divers un peu, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même un fait important dans cette observation. Donc, nous sommes allés chez des amis avec le Cadillac en banlieue de Montréal, sur la rive sud de Longueuil. Et on a couché là-bas. Je n'ai pas vraiment fait allusion à ce qui nous était arrivé, parce que je pense qu'on avait d'autres chats à fouetter, à l'effet qu'il fallait se loger le lendemain, et puis bon. Donc, le lendemain, on a voulu utiliser l'auto pour aller visiter diverses places, et l'auto n'a pas démarré. Bon, la première peur qu'on a eue, c'est que le moteur avait gelé, hein, parce que du côté sud des États-Unis, si on met de l'eau dans le radiateur, c'est pas grave, mais lorsqu'on monte au Québec en décembre, il fait froid. Donc, j'ai dit, ah, mon Dieu, peut-être que... ou la batterie, ou peu importe. Finalement, l'auto n'a jamais redémarré. On a utilisé les services de nos amis pour trouver une place pas tellement loin où est-ce qu'on pouvait s'installer. Richard a pris la décision de vendre l'auto à la ferraille. Donc, on a appelé, puis ils sont venus chercher l'auto. Je pense qu'ils avaient donné comme 200$ à l'époque, c'était pas grand-chose. On avait spécifié que pourtant l'auto était fonctionnelle. Pour se faire rappeler, finalement, peu de temps après, pour se faire dire que l'auto, c'était... que le moteur était saisi. Un peu comme si... je ne peux pas vous dire, là, je ne suis pas une fervente en mécanique, mais le moteur était saisi. Donc, il ne pouvait pas tourner et que le filage sous le tableau de bord était un peu comme... ça avait surchauffé. C'est un peu grillé, si on veut. Bon, pour moi, en tant que tel, ça ne m'a pas changé grand-chose dans ma vie, autre que je me souviens très bien d'avoir entendu du monsieur en question. Et par la suite, bon, ben, la vie a continué, a repris son cours. Et en 1984 ou 85, je ne me souviens pas si c'est une année ou l'autre, ça c'est plate, mais que voulez-vous. Moi, j'aimais beaucoup les antiquités. Et je suis allé dans une brocante tout près de dans la ville où j'habitais à Saint-Jean, au Québec. Et puis, je voyais une lampe un peu spéciale qui avait un peu comme un peu l'apparence là, de velours rouge, comme une coupole. En tout cas, ça m'intéressait. Et j'entendais un client avec le propriétaire de la brocante parler d'ovnis, parler de choses au niveau des ovnis. Et je me suis mêlé à la conversation en disant, j'ai dit, c'est vrai que beaucoup de gens en parlent. Et là, le monsieur m'a dit, qui est le client, m'a dit, oui, puis vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences. Puis... Donc, le propriétaire, j'ai commencé à avoir une conversation avec lui. Puis il m'a demandé, est-ce que tu aimerais savoir ce qui t'est vraiment arrivé? Parce que j'avais quand même raconté mon histoire de manière sommaire. Bon, je dis pourquoi pas. Et puis, c'est là qu'il m'a introduite auprès d'un homme que je ne me souvenais plus du nom et qui demeurait aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, il m'a demandé si je voulais laisser mes coordonnées. J'ai dit non, que j'aimerais mieux que moi, j'entre en communication avec lui. Finalement, je l'ai fait. Et puis, j'ai rencontré le monsieur en question. C'était... dans une maison unifamiliale, et puis bon, l'entrée donnait directement dans son salon où il y avait comme des diplômes au mur, mais vous savez, à 24 ans, on a un peu la tête en l'air. Je ne me souviens même pas ce qui était marqué sur les diplômes, je vous avoue. Et on a commencé à parler, on a parlé environ pendant 1h30, 2h, et puis par la suite, il m'a demandé si je serais d'accord pour... revenir si jamais il y avait d'autres informations que je pouvais lui apporter ou que lui pouvait m'apporter. J'étais d'accord. Et environ un mois et demi plus tard, là, il m'a demandé de retourner. Je suis retourné. Et là, il m'a avoué qu'il m'avait hypnotisé. Moi, je vous avoue que je la discutais un peu à croire en ces méthodes parce que je n'ai jamais été vraiment versé dans l'ésotérisme, si on veut, ou dans les croyances quelconques, là, que je respecte, mais je n'avais pas vraiment d'intérêt personnel. J'étais plus, quand j'étais jeune, un peu plus fofolle, comme on dit, sur la party. Je dansais beaucoup sur des chansons du type Johnny Hallyday. En tous les cas. Et puis, suite à cette rencontre, cette seconde rencontre, ben là, le monsieur m'a expliqué que j'avais... Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de vidéo, il n'y avait pas de... J'ai demandé d'avoir accès à ses notes. Il les a refusées sous prétexte de la confidentialité, que lui faisait ça à titre personnel, et puis que, bon, en tout cas, je ne me suis pas obstiné.
C'est là qu'il a commencé. Excuse-moi, Oui. Permets-moi de te poser une question par rapport à ce personnage, en fait. Qui était-il, ce monsieur, exactement? Enfin, quelle était sa profession? Il était hypnotiseur de profession ou rien à voir? Enfin, ça m'intrigue un petit peu, ce personnage-là, qui apparaît dans ta vie à ce moment-là et qui ne veut pas te transmettre tes propres informations. Qui était-il?
Bon, je serais venu à cette information-là par la suite. C'est que moi, ce n'est pas quelque chose qui avait retenu plus que ça mon attention de savoir qui il était. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça. Je l'ai apprise en 2015, je crois, ou 2014-2015. Je l'ai apprise de Christian Page. Christian Page est un journaliste qui s'occupe un peu des phénomènes paranormaux. J'imagine que les auditeurs doivent le connaître. Il est au Québec. Bon, il est devenu un ami par la suite parce qu'il a participé à certaines activités que j'avais organisées par la suite. Et c'est lui, quand je lui ai raconté mon expérience, qu'il m'a dit « Ah, je sais qui tu as vu. » Et c'est là qu'il m'a nommé le nom de l'individu en question qui s'appellerait Albert Drouin. Cet individu, j'ai fait des recherches sur lui. Je pense que c'était un père. Il enseignait dans des communautés, je crois, religieuses ou à l'université, des choses comme ça. Mais il était un peu, il était, je pense, psychologue de profession, mais psychologue œcuménique. Vous savez, le genre de bonhomme qui est bardé de diplômes, si on veut. Et puis qu'il y a probablement. Il était quand même assez âgé quand je l'ai rencontré, moi. Donc, je présume. Et là, c'est ce qui est arrivé, c'est que Christian, quand il m'a donné le nom de la personne, il m'a dit « Écoute, le fait que tu aies rencontré ce personnage crédibilise d'autant plus ta démarche avec lui. » Parce que ce n'était pas le genre de personnage qui s'acoquinait avec n'importe qui. Il paraît qu'il avait beaucoup, beaucoup de crédibilité, cet individu. Au niveau de la, c'était notoire dans son cas. Donc, son nom, c'est Albert Drouin. Si jamais des gens veulent faire des recherches, vous allez y trouver, mais il faut fouiller un peu parce que l'individu est décédé maintenant. Il serait vraiment âgé. Moi, j'avais quoi, 24 ans, peut-être 25 quand je l'ai rencontré. Et j'en ai 61, donc vous voyez la différence. Donc, c'était Albert Drouin. Et puis, donc, moi, il ne s'est rien passé par la suite. Tout est tombé, lettre morte. Je ne parlais jamais, que ce soit à la famille, aux amis, aux connaissances, les gens que je fréquentais, les confrères, consoeurs, car à chaque fois que j'avais essayé d'en parler, je passais pour une folle. On me disait tout le temps, « Ah, toi, tes petits bonhommes verts, tu les vois dans ta soupe. » Et puis, pourtant, ce n'était pas des bonhommes verts, en tous les cas. Et puis, en 2013, j'avais un copain, je vais taire son nom de famille, c'était un médecin retraité qui s'appelait Yvan. Yvan, je lui avais fait la confidence lorsqu'on avait pris un petit verre de vin ensemble que j'avais eu une expérience parce que lui semblait passionné par les phénomènes paranormaux et tout ce qui peut être en relation de près ou de loin avec des apparitions, que ce soit maritales ou peu importe, ovni ou tout ce qui peut. Donc, c'était des sujets qui le passionnaient. On était en 2013. Et là, il m'a mentionné le nom de Richard Glenn. Richard Glenn, moi, j'avais entendu parler de lui dans les années. Au début des années 80, je sais qu'il y avait une émission sur l'ésotérisme qui était très connue au Québec, sur le câble. Et puis, je n'ai jamais attaché d'importance à cet individu. Et là, lui m'a demandé, écoute, on pourrait essayer de voir où il habite, puis peut-être que tu pourrais lui lui relater ton expérience. On l'a trouvé, il habite Mont-Saint-Hilaire. Et puis en 2013, je suis allé... avec lui en automobile. Et lorsque j'ai voulu sonner à sa porte, il n'y avait personne. Et lorsque j'ai voulu repartir, il y a une camionnette qui est arrivée juste à l'arrière de moi pour me dire « Qu'est-ce que vous faites ici? » Et là, j'ai reconnu que c'était lui. Je me souvenais un peu de son immense moustache, là, vous savez, retournée sur les côtés. Et là, il voulait savoir ce que je faisais là. Et là, je me suis introduite. Et puis là, Yvan s'est introduit. Et finalement, on a passé la soirée ensemble. Et j'ai raconté mon histoire au complet, du début jusqu'à la fin. Bien entendu, en occultant une partie de mon histoire qui, comme je vous dis, qui est plus personnelle. Donc, lui m'a dit, écoute, tu as vraiment... Lui croyait beaucoup, beaucoup à ce que j'avais vécu parce que j'avais des paramètres que, selon lui, étaient évidents que, bon, Comme on dit, il y avait de la moelle après l'os. C'est une expression qu'on utilise au Québec. Et par la suite, il a communiqué avec moi pour savoir si j'aimerais participer à ce qu'il appelait, lui, en 2013, Vidéo Randia. Vidéo Randia, c'était une émission qui était hebdomadaire, que je pense qu'on peut encore trouver l'émission à laquelle j'ai participé. C'est sur le net. C'est Vidéo Randia, c'est 2014, printemps 2014.
Alors, il y a Cindy qui nous a mis sur le chat un YouTube, c'est Louise Dionne, des soupers expérientiels qui datent de 2015. Mais je sais, c'est peut-être pas ça, en fait, non?
Non, c'est pas la première où est-ce que je suis allé sur Richard Lenn. Richard Lenn, par la suite, je vais faire un peu l'historique de tout ça, c'est qu'il m'a demandé son aide. Mon aide plutôt pour organiser certaines choses parce que bon, je suis très bon en administration et puis j'ai beaucoup de contacts. Donc pour la négociation, je suis vraiment reconnu pour tel. Et puis c'est à ce moment que j'ai passé j'ai eu d'autres parutions avec lui là, par la suite parce que j'avais organisé des soupers expérientiels ici au Québec en prenant un peu copier-coller des soupers ufologiques de la France, mais en incluant tous les sujets. Pas seulement que les sujets ufologiques. Donc, pour retourner en 2014, Richard Lenn m'a demandé de participer à son congrès UFO 401, qui a été une réussite selon moi, où il y avait un peu par Skype différents intervenants et d'autres intervenants en salle au Cégep Maisonneuve, Collège Maisonneuve, en 2014. Les gens peuvent trouver facilement. Là, je crois même que c'est disponible encore là, sur le net, là, le congrès. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Bob Belanca de BTLV à Paris, qui, lui, ça fonctionne encore. Je vois régulièrement, là, je suis abonné à sa newsletter et j'ai été contributrice au départ parce que je croyais beaucoup, beaucoup en Bob. J'adorais Bob, ainsi que Mathieu Alouche, qui était avec lui, là, son complice, si on veut, qui est maintenant dans l'aviation, je crois. Donc, j'ai eu d'ailleurs la chance, quand je suis allé en France, passer à une de ses émissions, et puis au château de Fougeray. J'ai fait comme un peu un périple autour de la France en 2014. Donc, c'est ça. Pour terminer, c'est que c'est là que, suite à ce passage, à ce vidéo rendu de 2014, qu'en tant que recherchiste, Richard Lenn, c'est là que j'ai appris, à mon grand étonnement, que je savais que John Lennon avait été assassiné, mais c'est là que j'ai fait le lien entre le 8 décembre. Je savais que c'était en décembre, parce qu'on avait fêté la Thanksgiving aux États-Unis, et c'est toujours plus tardif qu'au Canada. Donc, c'est ce qui m'est arrivé en tant que tel. Par la suite, il s'est passé des choses un peu étranges. Je ne sais pas si tu veux, Hervé, que je m'arrête à ce moment-ci, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions ou si j'enchaîne sur la seconde partie.
Alors, ben oui, alors c'est vrai que ça, pour l'instant, ça. Moi j'ai écouté ton récit comme si j'étais en train de regarder un film. Et franchement, j'y étais. Hein. Il y avait tous les éléments. C'est comme dans les films. j'ai adoré, hein, comme un peu comme un récit X-Files. Et c'est marrant parce que je pense que les films se sont aussi beaucoup inspirés de la réalité. Mais en fait, si tu veux, jusqu'à présent, on n'a pas le sentiment que tu aies vécu une expérience d'abduction. Alors, mais je pense que ceux qui ont écouté ton histoire depuis, enfin voilà, dans l'intégralité là que tu viens de raconter, on sent bien que cette histoire d'autoroute a quelque chose d'artificiel et de synthétique et qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Donc, c'est peut-être ça que tu vas nous raconter dans la deuxième partie.
Exactement. Et moi, ce qui m'a mis sur la piste, c'est le fait d'apprendre en 2013 que John Lennon a été assassiné autour de 23 heures et quelques minutes. Ça a été une révélation pour moi parce que je me souviens très bien que j'ai appris l'information 4 heures avant. C'est incroyable, ça relève du miracle. Pour moi, j'en ai encore des frissons. Pour moi, c'est la preuve ultime, pour moi, de manière empirique, que cette histoire-là, je ne l'ai pas rêvée, non? Elle était vraiment, 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 pour moi, une réalité. Et le fait d'avoir 2 heures de missing time sur cette autoroute, qui, dans le fond, n'était probablement pas une autoroute, fait en sorte que ça concrétise encore plus ma croyance au niveau de ce qui est arrivé à l'époque. Où je vais enchaîner, c'est là qu'on va voir le lien qui existe entre tout ça, c'est qu'à partir des années suite à la régression hypnotique, le monsieur m'a expliqué, parce que lorsqu'on a, je l'ai vu à la deuxième rencontre, il m'a expliqué que j'avais des moments où est-ce que j'étais paniqué, comme en transe, si on veut, j'étais comme paniqué. Et d'autres moments où j'étais un peu rempli d'un sentiment de béatitude, vous savez, excessivement bien, heureuse. Il paraît que j'avais un visage quasi angélique à l'époque. Le monsieur trouvait ça absolument magnifique, qui avait rarement vu ce genre de situation-là se produire sur la place où est-ce que justement il faisait les hypnoses. Et aussi les places où est-ce que je parlais même, il y avait des paroles que je disais qui étaient incompréhensibles. Bon, sûrement pas une autre langue, là. Peut-être du baragouinage plus qu'autre chose, mais vu qu'il n'y a pas de vidéo d'époque, on ne peut pas savoir. Hein. Et lui m'a mentionné que j'ai fait ce narratif que je vais vous partager. Je lui aurais dit que je me sentais comme sur une table froide, métallique, sûrement métallique pour être froide comme ça. Là, par la suite, d'ailleurs, les idées, tous les souvenirs sont revenus à la surface. Et je me souviens très bien de l'endroit où j'étais. J'étais dans une pièce qui était circulaire. C'était vraiment sur une table. Sur la table en question, j'avais les bras croisés, comme en croix, de chaque côté de moi. Je ne pouvais pas bouger la tête plus que... Je ne pouvais pas aller à l'arrière. Vous savez, je pouvais tourner à gauche, tourner à droite légèrement et lever les yeux. Je savais que j'étais couché sur cette table. J'étais en position couchée. Et à l'avant de moi, il y avait comme une vitrine, vous savez, plusieurs fenêtres, plusieurs châssis, où est-ce qu'il y avait des gens qui déambulaient de toutes les formes, grandes, petites, moyennes, avec un éclairage, un rétro-éclairage à l'arrière, comme encore une fois cette fameuse lumière d'ailes que je voyais, qui me permettait de voir qu'ils faisaient le va-et-vient et voir un peu leur forme, une forme très mince, allongée, vous savez, humanoïde, oui, mais beaucoup plus mince, avec des membres plus longs, des têtes un peu plus grosses, mais de différentes hauteurs. Et à l'arrière de moi, j'ai senti à un moment donné qu'on me parlait. Et là, j'ai essayé de comprendre ce qu'on me disait, puis on me rassurait. On me disait de ne pas avoir peur, que c'était... les paroles exactes, je ne peux pas vous les relater, mais on me disait, on voulait me rassurer qu'il n'y avait pas de danger, que ce n'était pas un hasard que je sois là maintenant, un peu comme choisi, si on veut, parmi tant d'autres qui ont peut-être eu des expériences similaires. Et ils me touchaient la tête. Je me souviens, leur toucher était un peu... C'était un peu froid et chaud en même temps. C'est une drôle de sensation. Un peu caoutchouteux, un peu comme des doigts de caoutchouc. Est-ce qu'il y avait des gants? Peut-être. Mais peut-être aussi qu'il n'y avait pas de gants, c'était leur membre. Au nombre de doigts, il y avait... Moi, je pense qu'il y avait trois... Il y avait probablement trois doigts plus le pouce, donc quatre. Mais encore là, je ne suis pas certain à 100%, mais c'est l'impression que j'avais lorsqu'on me touchait. Et là, je me suis étiré un peu. Et là, j'ai vu leur visage avec des grands yeux. Des grands yeux très révélateurs, où est-ce qu'on avait un sentiment de bonheur, pas un sentiment de peur, ce qu'on pourrait peut-être croire si cela nous arrive. Moi, j'avais un sentiment de sécurité, mais je ne voyais pas leur bouche bouger parce que je ne voyais pas de bouche, ce n'est pas compliqué, et je voyais au travers d'eux, un peu comme une ossature, avec une peau laiteuse, crémeuse, avec des membres très longs, une tête assez importante, assez imposante. Il y en avait un grand, il y en avait un petit. Et on me rassurait, on me disait que tout va bien aller. Et il y a quelque chose aussi que je n'ai jamais dit en 2014 ou en 2016. À l'époque, je ne voulais pas passer pour une folle, mais on me disait, ces individus m'ont dit, que de ne pas m'inquiéter. Par contre, que bientôt, ça sera horrible pour une grande majorité et merveilleux pour une petite minorité. Ça, je me souviens de ça comme si c'était hier. Pourquoi je donne cette information-là? C'est que je considère qu'elle peut être pertinente de plus en plus quand je vois le contexte dans lequel où est-ce que l'humanité se dirige tout doucement. Un gouffre sans fond. Ça, c'est une opinion personnelle encore là. Et par la suite, là, tout à coup, j'ai senti un bruit, une sensation sur la table. La table a commencé à descendre. Je descendais et au début, je pensais que c'était la fenêtre en face de moi qui s'élevait. Là, j'ai bien vu que je descendais. Donc, c'est tout l'ensemble de la salle qui semblait descendre. Et là, je voyais les fenêtres monter. Donc, je voyais pratiquement plus les gens qui étaient à l'arrière de la fenêtre en question, qui était circulaire. Puis, j'avais plus l'impression de d'elle au-dessus de moi là, qui alimente l'éclairage de la pièce. Et tout à coup, c'est devenu noir, noir, noir. La seule chose que je pouvais voir, c'était comme les étoiles. Vous savez, une nuit d'encre, où est-ce qu'on peut percevoir toutes les étoiles dans le firmament? Eh bien, je les voyais toutes. Et même si je regardais du côté gauche, du côté droit, j'avais l'impression que je flottais dans l'espace. C'est absolument incroyable. J'avais une sensation de vent. Vous savez, lorsqu'on a un petit vent léger qui nous caresse, j'avais cette sensation. Je vous jure, j'avais l'impression de me déplacer dans l'espace. C'était absolument incroyable. C'est le plus beau souvenir que je me suis souvenu par la suite qui est revenu à ma mémoire. Et tout s'arrête. Par la suite, la seule chose que j'ai faite suite au passage chez Richard Lem, j'ai passé à son congrès, comme je vous dis, j'ai relaté encore une fois mon expérience. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Gabriel Grélé quand je suis allé à Paris à l'émission BTLV. Il voulait absolument me rencontrer, m'a montré des documents. Il y a beaucoup d'informations qui s'est échangées et j'ai eu l'opportunité de communiquer avec Christian Comtesse qui était le responsable des repas ufologiques en France, qui, lui, m'avait invité à aller chez lui, tout près de Strasbourg, en Alsace, avec son épouse, pour participer à un super ufologique, d'ailleurs, qu'il y a des Allemands qui sont venus, et puis ça a été une belle réussite. Et j'ai été mise aussi en contact avec Pascal Fechner, qui est à Marseille, ainsi que Cyril Tavenard de Nantes. Mon Dieu, plusieurs personnes... Au niveau du côté de la Suisse, bon, il y avait Yvan Mendes qui s'en occupait à Lausanne. Il y avait Antonia Petrelia, je pense, dans Vaucluse. Il y avait plusieurs endroits où est-ce que j'ai eu la chance de parcourir. Donc, je suis allé au départ du côté sud. J'ai même eu l'occasion de participer à une soirée au château de Fougeray, le château le plus hanté de France, qu'on dit. Avec Véronique de Fougeray et puis le baron. Donc, c'était des belles expériences, des belles rencontres où est-ce que j'ai encore une fois j'ai pu raconter mon expérience. Donc, j'ai eu un beau partage, une belle réception. Et puis, je ne crois pas que j'ai eu beaucoup de jugement parce que le but n'était pas de heurter les croyances de tous et chacun, simplement de relater ce que moi j'avais vécu en tant qu'être humain, tout simplement.
Alors on a une personne qui est intervenue là dans le chat, Christina, qui nous dit la chose suivante. Dans le livre « Les gardiens » de Dolores Cannon, je ne sais pas si tu connais ce livre, témoignages identiques à Louise où les petits ou grands gris disent la même chose de ne pas avoir peur. Témoignages obtenus sous hypnose régressive, sinon les témoins ne se souvenaient de rien.
Exactement.
Alors, est-ce que tu penses que ce serait justement des grands gris potentiellement que tu as vu là autour de cette table?
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Moi, les gens ou les entités que j'ai rencontrées, je sais que ce n'est pas des terriens. Là, ça ne vient pas d'ici. Maintenant, non, honnêtement, je ne sais même pas à quoi correspond la description des grands gris, je pense. Je crois que Richard Lem en parlait beaucoup de ça, des grands gris, des grands blonds. Moi, je vous ai simplement raconté mon expérience. Maintenant, si on veut associer à d'autres phénomènes, bon, tout est possible. Mais moi, je ne peux pas rien confirmer, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai vécu, moi, en tant que tel.
Alors, je reviens un petit peu là sur ce que tu nous as raconté, là, juste à l'instant. Donc, notamment quand tu nous parlais de cette nuit d'encre et de toutes ces étoiles et cette sensation merveilleuse là, que tu avais, est-ce que là, on n'est pas justement dans l'image qu'on voit dans les films où il y a le corps qui est, tu sais, qui monte comme sans gravité, qui est aspiré par un rayon de lumière. Et puis, alors ça, c'est quand on monte, et puis après, qui redescend et qui te redépose peut-être justement dans ta voiture une fois que l'expérience est terminée. Cette vision du ciel étoilé, est-ce que c'était pas ce moment spécial justement où tu transites entre ta voiture et la soucoupe?
Peut-être. Je ne peux pas dire, peut-être. Mais il y a une chose que je tiens à rajouter qui est très importante sur mon expérience. Je n'avais jamais eu le sentiment de retourner sur les lieux où cela m'était arrivé. C'est important de le spécifier parce qu'il y a, mon Dieu, ça fait déjà peut-être 3 ans, je suis retourné, j'ai fait une tentative de retrouver l'endroit exact où cela m'était arrivé dans mes souvenirs. Et moi, dans ma tête, c'était toujours, parce que ça, je n'ai jamais parlé, là, ça fait quand même relativement un peu de temps, 2 ou 3 ans, dans ma tête, c'était dans la ville de Poughkeepsie, qui était située entre New York et Albany, qu'on avait pris la bretelle pour sortir de l'autoroute pour trouver de l'essence. Mais là, je me suis rendu jusqu'à la 90, à la hauteur d'Albany, et je voyais que Poughkeepsie était beaucoup plus au sud. Et je voyais que la route départementale, si on veut 22, était tout près du Massachusetts. Donc, je me disais, comment j'ai fait pour parvenir de la 87 à la 22? Là, j'ai vraiment fait un travail d'analyse. Et j'ai fait ce chemin-là et ça ne me rappelait absolument rien. Donc, j'ai refait la 22 nord jusqu'à la hauteur de la 90 et il n'y a pas d'entrée sur l'autoroute aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des modifications? Je ne le sais pas. Mais chemin faisant, j'ai réussi à retourner sur la 90 direction ouest et je suis sorti un peu avant la 87. Là, maintenant, il y a un immense Walmart. Je ne me souviens pas de la ville exacte. J'ai commencé à rouler sur ce chemin pour m'apercevoir que, mon Dieu, j'avais des souvenirs sur cette route-là. Pourtant, ce n'est pas l'endroit où est-ce que j'avais eu mon expérience à l'époque. Comment je pouvais expliquer cela? Et là, j'ai commencé à rouler dans les petites routes autour pour essayer de voir ce qui pourrait un peu me titiller, qui pourrait ramener, si on veut, certains souvenirs à la surface. Et je suis retourné sur la 22 aussi, mais plus au nord de la 90, pour arriver dans une petite ville qui s'appelle Salem. C'est drôle parce que Salem, on fait le rapprochement avec Salem, la ville des sorcières, là, du côté de, pas loin de Boston, là, au Massachusetts. Mais il y a aussi une ville qui s'appelle Salem, un petit village, une petite ville, dans l'État de New York. Et j'ai passé par la ville, je me suis dit, mon Dieu, c'est la ville que j'ai vue le soir où cette expérience nous est arrivée, parce qu'on avait traversé une petite ville. Et par la suite, c'est là qu'on a vu sur la route qui était au nord de cette petite ville, c'est là qu'on a vu la place où est-ce que j'ai vu l'entité ou le vaisseau, appelez-le comme vous voulez, et j'ai retrouvé la courbe exactement où cela m'est arrivé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que sur cette route, sur ce village, l'endroit exact où cela m'est arrivé n'est pas l'endroit où j'ai cru que cela m'était arrivé. Ça a été un endroit qui est quand même, hein, mon Dieu, je vous dirais, 2 heures au nord de cet endroit-là. Et il n'y a plus d'autoroute au nord, parce qu'elle est au sud à ce moment. On se retrouve au nord de la 90. Donc, j'ai pris le 22, j'ai continué, et puis là, on voit qu'on arrive du côté de Lac Georges, des choses comme ça. C'est un endroit de villégiature, c'est différent de mes souvenirs, parce que mes souvenirs me montrent qu'on a croisé une autoroute, où est-ce qu'on a vu le restaurant, où j'ai vu le restaurant, et puis que par la suite, le monsieur chauve nous a fait signe de prendre l'autoroute en question avec sa camionnette rouge, que j'ai roulé pendant 2 heures avec cet éclairage qui était en dalle, avec aucune bretelle, avec aucune sortie, aucune réception radio. Et là, tout à coup, je me retrouve sur la 87 suite à mon expérience, mais la 22 en question, elle va rattraper la 87 beaucoup plus au nord. Donc, il y a quelque chose dans mon esprit qui manque. Il y a une bride de mon vécu qui me manque. Il y a une place où est-ce que je n'étais plus conscient de ce qui s'est produit. Il faut que je mentionne que Richard est décédé en 86, je pense, donc environ une année où ça faisait quand même plusieurs années qu'on n'était plus ensemble. Et à ce moment-là, quand il est décédé du cancer très jeune. Je trouvais ça triste et je l'ai appelé par sa famille. Par la suite, j'ai eu d'autres conjoints qui sont malheureusement aussi tous décédés du cancer. C'est un peu particulier. J'ai enterré plusieurs personnes, malheureusement. Et mon avant-dernier, même chose, il est mort du cancer de la prostate. Donc, est-ce que c'est un fait du hasard? Je souhaite que oui. Là, j'ai un copain que je me suis fait. Ce copain-là n'habite pas avec moi, mais on n'est pas prêt à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, jusqu'à maintenant, lui, ça va. À part d'avoir vieilli beaucoup, là, depuis qu'il me connaît depuis 2 ans. C'est peut-être déjà mon caractère. Je tenais à apporter cette spécificité-là au niveau de l'endroit où j'étais situé. Donc, est-ce qu'on m'a pris une place qu'on m'a amené ailleurs? Je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. Et déjà, ça fait 40 ans. Malgré que mes souvenirs sont frais dans mon esprit, j'avais pris des notes à l'époque, mais ce n'était pas comme un journal de bord, si on veut. Donc, je n'ai pas tous les détails. Et par la suite, de cette expérience, moi, comme je vous dis, je précise que j'étais, je ne veux pas qu'on me juge, j'étais fofolle quand j'étais jeune et j'étais une cancre à l'école, dans le sens que je ne faisais que l'école buissonnière, rien ne m'intéressait autre que la nature. Je trouvais ça beau, la nature, l'écologie. Et par la suite, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait un baccalauréat en physique et une maîtrise en administration qui m'a permis de cheminer dans la vie, d'avoir plusieurs appartements locatifs et puis de me construire une bonne stabilité financière, si on veut. Puis aujourd'hui, bon, je suis à l'aise, je suis retraité. Oui, j'ai besoin de mes semblables, qui me manquent beaucoup depuis ces folies de confinement, et de couvre-feu et de toutes les saloperies qu'on nous impose. Je considère que je devais faire part de cette expérience-là aux gens parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de mon passé. Bon, c'est une expérience empirique, comme disait Christian Page, mais je voulais partager. Ce que j'ai fait par la suite, en 2014, j'ai commencé suite à mon voyage en France, à l'époque où j'ai fait avec Christian Comtesse une tournée. J'ai aussi revenu avec l'idée de faire ce qu'on appelait des soupers expérientiels ici au Québec. On a débuté avec 3 autres filles et moi, on était 4 au départ. C'était bien, on se rencontrait dans des restaurants, dans des endroits où est-ce qu'on pouvait être, comment je peux dire ça, une certaine confidentialité, sans pouvoir assurer la confidentialité. On faisait tout dans notre pouvoir et on allait partager un bon repas. C'était sans aucun frais, il n'y avait pas d'argent qui était en cause, sauf en dernier, où est-ce qu'on avait besoin de certains équipements dus au fait que l'assiduité, c'était incroyable. On avait des soupers avec 60, 80 personnes. Et là, la table devenait tellement immense. Les endroits étaient tellement grands qu'on devait avoir une certaine forme d'équipement électronique, d'équipement audiovisuel pour être capable de se parler au bout de la table. Donc, on avait fait des moitiés-moitiés. Là, on vendait des petits billets où est-ce que les profits étaient tout simplement, c'était des profits très, très médiocre. D'ailleurs, moi, ça m'a coûté plus d'argent que j'ai pu en récolter, mais je l'ai fait. Et puis, on a fait 33 repas, une fois expérientiels, dans lesquels les gens venaient de tout âge nous raconter, c'était sans jugement, nous raconter les expériences qu'ils avaient eues. Ça pouvait être avec des fantômes, ça pouvait être avec n'importe quoi qui est en rapport avec des expérienceurs. Donc, ce qu'on a pu vivre dans notre passé, que ce soit des expériences positives, négatives, et je vous avoue qu'on a eu des frissons, c'était nourrissant, c'était vraiment une nourriture quasi spirituelle. Et puis, à un moment donné, dans les années, peut-être 2 ans après, je ne sais pas, la flamme s'est éteinte un peu en dedans de moi, et j'ai dit, bon, ben moi, je vais cesser les repas, et les soupers expérientiels se sont éteints. On a eu beaucoup de Français qui étaient venus. On a eu beaucoup de plaisir avec eux. On a échangé. Eux aussi, je me souviendrai toujours de quelques personnages en question que j'ai eu des plaisirs immenses. Ils m'ont aidé à faire un site Internet à l'époque. Aujourd'hui, bon, il n'est plus en ligne. Mais on avait notre page Facebook. C'était quand même bien. Et puis, on a eu plusieurs expériences assez, assez spéciales qui se sont produites lors de ces soupers. Donc, c'est ça. C'est l'histoire de ma vie tient en ce que je viens de vous relater. En 1 heure, je pense que j'ai essayé de faire le meilleur résumé possible pour essayer de rejoindre le plus de gens possible.
C'est super. Ben, en tout cas, moi, j'ai eu quelques frissons aussi en écoutant ton histoire. Et puis, oui, ben, c'est vrai que tu as fait finalement ta part du travail hein, avec ces soupers expérientiels. Pour nous ouvrir à tout ça, pour maintenir cette flamme justement sur tous ces sujets dits paranormaux qui en fait font partie de notre vie mais qu'on essaye de cacher. Alors je vais introduire un petit peu d'interactivité maintenant justement après cette heure de narration qui était passionnante. Donc il y a eu quelques personnes qui sont intervenues mais assez peu dans le chat. Donc moi j'invite là les personnes à réagir, donc à prendre la parole. Qu'est-ce que vous pensez là, du témoignage de Louise? Est-ce que ça vous semble crédible? Est-ce que ça réveille quelque chose en vous? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de comparable? Donc, je vous invite à venir justement prendre la parole. Donc, vous devez appuyer sur votre micro, je crois, pour pouvoir demander la parole. À ce moment-là, on vous la donne et après, vous devez activer votre micro vous-même. Donc, allez-y, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Alors, en attendant que les personnes n'arrivent, il y a une personne qui fait référence au fait que Nicolas Turban, qui est connu, je ne sais pas si tu le connais, Louise, mais qui est connu sur le web, il gère le site eveillum.com, il fait des vidéos. Donc, il était un jeune abducté. Personnellement, je ne le savais pas. Une personne qui s'appelle Francis Lemage, qui dit qu'il a été abducté plusieurs fois dans sa vie. Alors, il nous écoute, donc ça pourrait être intéressant qu'il prenne la parole. Alors là, je vais donner la parole à Lucie. Je vois que Lucie a levé la main. Allez-y, Lucie, la parole est à vous.
Bonsoir et d'abord merci à Louise pour son témoignage. Moi, je voulais savoir si, Louise, vous aviez eu des implants.
Voilà, le sujet est lancé. Tu dois connaître le sujet des implants, j'imagine, Louise.
Disons, dans un des soupers qu'on a fait, expérientiel d'ailleurs, je me souviens, ben ça, c'est pas mes paroles à moi, là. Je me souviens d'une participante qui s'appelait Glenna. Si jamais elle écoute ton émission, Hervé, c'est une Québécoise. Puis. Elle était venue avec son conjoint puis un ami. Puis elle m'avait touché la tête. Elle m'avait dit, c'est sûr, elle a un implant. Et puis, je ris de ça. Pourquoi? C'est que, bon, je dis, bon, voyons donc, c'est quoi cette chose-là? Parce que je suis très terre-à-terre, hein? Je suis très rationnel. Et j'aurais pas dû rire. Pourquoi j'ai pas dû rire? J'aurais pas dû avoir ce rire fou, malgré que je l'ai pas fait devant elle, mais je l'avais en dedans de moi. Si je me suis dit, d'où est-ce qu'elle va chercher ça? Elle m'avait touché et elle m'a dit qu'elle avait une sensation de chaleur du côté gauche de ma tempe, près de mon œil gauche. Là, maintenant, je vais vous dire quelque chose tantôt qui n'a pas rapport avec mon expérience, mais qui a rapport avec mon nouveau vécu, si on veut. En 2014, plutôt, oui, c'est ça, 2014, je suis allé à un examen de la vue. La machine en question qui prend le champ visuel, parce qu'il y a plusieurs appareillages, et il y en a un qui fait, si on veut, le champ visuel de gauche à droite, dans laquelle on introduit notre visage et on doit dire si on voit des points lumineux allumés de chacun de nos yeux, du côté, chacun de nos yeux, donc du côté gauche, du côté droit. Et lorsque je faisais le côté gauche, la machine cessait de fonctionner. Donc, la personne qui faisait l'examen, l'assistante là, de l'optométrice, elle m'a dit un instant, on va recommencer. Et à trois reprises, la machine a cessé de fonctionner au point où est-ce que la machine est devenue défectueuse. Elle m'a invité de retourner la semaine par la suite, suite à la réparation, pour qu'on complète cette partie d'examen. Je suis retourné. Et cette fois-ci, non seulement la machine est redevenue défectueuse parce qu'entre-temps, il y avait d'autres patients qui sont passés, mais le programme informatique dans l'appareil a complètement été bousillé. Donc, je n'ai jamais été capable d'avoir de réponse du côté gauche. J'ai fait un autre examen de la vue en 2016 et je dis à la personne qui me fait l'examen, qui était dans un autre bureau d'optométrice, écoutez, ça se peut que la machine lâche. Et puis, je dis ça en blague, et croyez-moi pas, la machine a lâché. Et je me suis aperçu qu'au moment où elle lâche, il y a comme un flash qui se produit. D'où provient le flash? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. En 2018, j'avais fait un autre examen de la vue, mais cette fois, l'optométrice qui était dans la région de Montréal, une optométriste reconnue, là, vraiment, m'a demandé si je voulais participer à un programme d'analyse à l'Université de Montréal, dans lequel ils doivent te mettre des électrodes là, sur la tête pour aller voir s'il y aurait un problème avec l'œil, qui est mon œil gauche. Et c'est drôle, parce que Glenna m'avait mentionné que mon œil gauche, près de mon œil gauche, elle sentait une sensation de chaleur. Donc, j'ai dit, non, c'est impossible, je ne peux pas croire que ce soit vrai, là. Et je n'ai pas participé au programme de recherche parce que je devais payer. Je dis, ben voyons donc, moi je vous offre mon corps en pâture et je dois payer pour une quelconque étude. Je dis non. Donc, tout s'est éteint. Et la dernière examen de la vue que j'ai fait l'an passé, celle-là elle est vraiment intéressante parce que j'ai l'optométriste, c'est lui-même qui l'a fait. Il m'a dit, il y a quelque chose dans votre œil gauche que je ne suis pas capable d'identifier. Je ne sais pas c'est quoi, c'est au fond de l'œil et ça semble lancer des impulsions. Ce n'est pas des blagues, là. Donc, lui voulait m'envoyer à l'hôpital du Haut-Richelieu pour être capable de sonder, voir qu'est-ce qui se produit. Parce que la machine en question qui prend encore le champ visuel, elle a tombé en panne. Donc, je lui ai demandé... Parce que là, maintenant, il y a un nouveau procédé dans lequel ils peuvent prendre des photos du fond de l'œil. Il a pris des photos du fond de l'œil. Et là, il m'a montré l'objet intrus qui est à l'intérieur, qui est connecté après mon nerf optique. Donc, je lui ai demandé si je pouvais avoir accès à ces photos. Et par bonheur, je les ai. Donc, on voit effectivement qu'il y a quelque chose. Mais on ne sait pas c'est quoi. Lui, selon lui, il m'a demandé si j'avais déjà été opéré suite à un accident ou des choses comme ça au niveau du lobe oculaire. J'ai dit non. Donc, c'est vraiment, vraiment curieux, cette histoire. Et au début de l'année 2021, j'avais un mal de dents terrible. Je suis allé, j'avais une infection dans la bouche, mais cette fois du côté droit de ma bouche. Et ils ont pris des radiographies pour s'apercevoir que j'avais une plaque de métal du côté droit de ma gencive, du côté supérieur. Et ça serait ça qui était super conductif, qui fait en sorte que j'avais une douleur. Donc, on ne pouvait pas non seulement faire d'obturation, on ne pouvait pas non seulement faire l'ablation de la dent, on se devait de me traiter par antibiotiques. Donc, avec, entre autres, de l'azithromycine et puis certains autres médications. Donc, et j'ai demandé, encore une fois, est-ce possible d'avoir une photo? Et on voit dans la photo qu'il y a bel et bien une plaque rectangulaire, métallique, dans laquelle on voit les terminaisons nerveuses connectées après cette plaque. Il m'a demandé si j'avais été victime d'un accident. Je dis non. Il m'a dit, si jamais vous m'auriez dit oui, ça c'est le dentiste qui m'a dit ça, j'aurais félicité le chirurgien parce qu'il n'y a aucune trace dans laquelle on voit que cela aurait pu être, qu'il y aurait pu y avoir une coupure au niveau de la gencive ou bien des points de suture ou peu importe. Donc, c'est tout neuf ce que je vous donne comme information. Je la partage avec vous parce que je considère que ça devient de plus en plus important et gênant dans ma vie parce que mon œil gauche, je ne vois pas de la même façon que l'œil droit. Il y avait justement cet été, on avait des spectacles aériens et puis j'ai assisté à un spectacle aérien avec mon copain et on était censé voir ce qu'ils appellent un peu comme la patrouille de France là, qui font des exercices dans le ciel. On les attendait, ils devaient passer au-dessus de l'aérodrome et puis tout le monde avait des yeux rivés d'un coin à l'autre du ciel. On ne les voyait pas venir. On savait que c'était sur le coin du nez, mais on ne les voyait pas. Et moi, je me suis mise à regarder du côté est et je me suis aperçu que je voyais des appareils venir. Et je les voyais au loin. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu tendance à mettre ma main devant mon œil gauche, mon œil droit. Mon œil gauche voyait les avions, mon œil droit ne les voyait pas. Et là, j'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit, ah, ils s'en viennent. Ils vont passer d'environ... ça ne sera pas long. Ils s'en viennent. Je les vois au loin. Puis j'entendais même les bruits des réacteurs. Et là, il n'y avait rien qui se passait. Ils n'arrivaient pas. Et tout à coup, environ, mon Dieu, je vous dis, je ne mens pas, là, 45 secondes, une minute après, les avions sont arrivés. Exactement d'où est-ce qu'ils étaient censés de venir. Je le voyais. D'ailleurs, on devait les avoir de l'ouest. Et on les a eus de l'est. Moi, je leur disais, ah, ils s'en viennent, mais je les vois à l'est. Les gens me regardaient disant, ben voyons, ça n'a pas de sens. Elle a vu une minute avant les avions complètement à l'autre bout. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Puis mon copain est pilote d'avion. Puis à deux reprises, on a évité des accidents parce que je lui disais, il s'appelle Alain. J'ai dit, Alain, est-ce que tu vois? Il y a un avion juste en dessous de nous, là, pas tellement loin. Lui, il ne la voyait pas. Et quand il l'a vu, on l'a vu comme à la dernière minute. Donc, il trouvait ça drôle que je pouvais voir comme des oiseaux de très loin. Parce que vous savez, lorsqu'on vole en petit appareil Cessna, eh bien, c'est important de voir s'il y a des volatiles. Parce que si on frappe les volatiles, on peut avoir une panne moteur, ça peut être catastrophique. Donc, j'avais cette opportunité, cette facilité de voir les choses de loin. Donc, c'est ça, c'est une histoire, c'est quand même intéressant.
Alors, ouais, c'est super intéressant. Moi, ça me fait penser, tu sais, à une vieille série télévisée des années 80, L'homme qui valait 3 milliards, quelqu'un qui avait un œil bionique, justement, qui pouvait voir de très, très loin avec, avec son œil, un petit peu tel que tu nous le décris. En tout cas, ben, merci beaucoup pour franchement ce partage. Merci à Lucie d'avoir posé cette question. Elle valait le coup d'être posée, elle valait la peine d'être posée. Moi, j'aurais envie de te demander, Louise, tu n'as jamais eu affaire aux hommes en noir là, avec tout ce que tu nous racontes?
Non, pas du tout. J'ai pas eu personne qui est venu me voir de ce sens. Sans aller dans les détails, non, ça, je ne vais pas le raconter. C'est pas quelque chose qui est pertinent pour les gens qui écoutent. C'est dans ma vie personnelle, mais il est arrivé quelque chose où est-ce que ma vie a été... j'ai eu des menaces de mort, puis je ne sais pas de qui, je ne sais pas de quoi. C'est les services policiers qui sont venus m'aviser que ma vie est en danger. Ça, c'est l'an passé. Donc, je n'ai jamais su de qui. On n'a jamais voulu me le dire de où ça provenait, des menaces. Ça venait d'un service de Montréal. Donc, je ne sais pas. C'est sûrement pas relation. Là. Puis, vous savez, dans la vie, on peut croiser des gens, des fois qu'on frustre, et puis... Mais je ne me sentais pas impacté par cette menace. On voulait même que je m'assoie lorsqu'on m'a dit cette information-là. C'était un monsieur et une madame, deux policiers. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça ait de lien nécessairement. Parce qu'aujourd'hui, je suis en expertise de sinistre. Et puis, bon, c'est sûr qu'il y a des mécontents des fois là, suite à certains règlements. Mais je ne peux pas croire qu'il y a des gens seraient assez fous pour... en aller jusqu'à menacer des gens. Donc, je n'ai jamais su l'étonnant plus aboutissant de cette histoire en question où est-ce que ma vie aurait pu être en danger.
D'accord. Bon, en tout cas, ouais, c'est un super témoignage. J'en profite pour faire une toute petite page de publicité, puisqu'on parle, on a parlé d'un plan. Donc là, on a parlé d'un plan physique. Donc c'est waouh, c'est pour moi c'est un témoignage vraiment, ça a une valeur inestimable. Et nous en fait, on travaille sur les implants non physiques. On fait des séances tous les mercredis. Donc un mercredi sur deux, c'est en français, un mercredi sur deux en anglais. Donc il y a Cindy qui vient de mettre justement le lien pour la séance de mercredi. Donc ce mercredi-là, le mercredi 13 octobre, on fait une séance sur la dissolution des implants non physiques en français. Donc voilà, si vous êtes intéressé, on vous invite à vous joindre à nous. Alors, il y a Francis Lemage qui souhaitait intervenir, qui a une expérience intéressante à nous raconter. Vas-y Francis, tu peux prendre la parole. Alors, on te donnera un petit peu moins de temps qu'à Louise, mais ça peut être intéressant.
Ça va être court de toute façon. En été 2014, je ne sais plus très quel jour précis, en été 2014, il faisait chaud, j'étais chez moi et j'ai entendu une voix, enfin comme un appareil se mettre branché à ma tête, j'ai senti là, mon appartement vibrer et j'ai entendu une voix qui me dit « Qui es-tu ?» Et j'ai pris peur et il a reposé la question « Qui es-tu ?» Et là j'ai dit « Je suis le roi de la Terre » et j'ai été abducté dans un endroit assez sombre, et j'ai vu des grands blonds nordiques, d'après ce que m'a dit un colonel de la DST plus tard, et ces gens-là m'ont cloné dans l'espace.
Ok. Bah oui, d'accord, c'est bref, mais effectivement...
Mais c'est ce qui s'est passé réellement. Enfin, parce que le lendemain, j'ai été voir quelqu'un assez important dans la DST, et il m'a dit « Oui, c'est des grands blonds nordiques qui t'ont cloné. » Parce que tous les 6 mois environ, ils gardent leur vaisseau à côté du Soleil, un immense vaisseau vraiment très grand qui fait quasiment un dixième du Soleil.
C'est peut-être parce que tu leur as dit que tu étais le roi de la Terre. Si tu leur avais pas dit ça, peut-être que tu n'aurais pas eu d'ennui.
Peut-être, ouais, je ne sais pas. Et donc, pendant l'abduction, ils ont voulu me manger. Je ne sais pas si c'était... Ils ont pris peur et donc avec mes dons que j'ai fait des arcs électriques entre mes mains, j'ai dit non, ne mangez pas. Et ils m'ont demandé de faire apparaître un métal qui finissait en yum, mais je me rappelle plus c'est quoi précisément comme métal, un métal non terrien en tout cas. Et je sais que dans l'espace, je leur fabrique ce métal tout le temps, avec mes clones.
Ok, intéressant.
C'est assez étrange, n'est-ce pas?
Ah oui, oui, ça l'est, sans aucun doute. Mais alors après, voilà, c'est ton témoignage, nous on le prend comme tel. Hein, comme...
Et c'est vraiment, j'ai pas rêvé, j'étais vraiment, j'étais en insomnie, puis d'un coup, j'ai senti cette vibration dans mon appart, et puis j'ai senti cette abduction, j'ai vu des gens, enfin, dans la pénombre, et ils m'ont parlé, et puis voilà, quoi.
Alors, je sais que la Cyril, justement, nous avait sorti une statistique là des repas ufologiques, comme quoi il y aurait une personne sur 10 qui aurait assisté de près ou de loin, enfin qui aurait vu de près ou de loin un ovni ou quelque chose qui y ressemble. Mais par contre, sur les abductions, est-ce qu'il y a des statistiques, justement, Cyril? Est-ce que tu as des chiffres par rapport à ça? Quelle fraction de la population ça pourrait toucher?
Apparemment, il y a 711 abductés aujourd'hui connus en France. Et je le sors de la source du CERO, dirigé par Myriam Belliem. Il y aurait à peu près aujourd'hui 700 abductés en France dans toute l'histoire de l'ufologie.
Ah oui, donc ils ne sont pas forcément vivants encore. Enfin, c'est 700 témoignages. D'accord, ouais.
Pas forcément, mais c'est pas 700 par an, hein, c'est 700 en tout. Et par an, on peut en compter une cinquantaine par an.
D'accord, intéressant, très intéressant. En tout cas, merci, merci pour cette précision. Merci Francis pour ton témoignage. Je ne sais pas, Louise, si tu souhaites réagir à ce témoignage.
Disons que je ne peux pas vraiment dire. Je me souviens que lorsque on avait les soupers expérientiels, plusieurs personnes nous relataient des situations similaires, pas du moins similaires, qui se rapprochent. Donc, tout est possible. Hein. Vous savez, beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences que les gens peuvent vivre étant donné que c'est des expériences, comme dit Christian Page, qui sont empiriques, donc qui ne concernent que la personne en question, et à ce moment-là, c'est la vérité de chaque personne qui a vécu l'expérience. Donc, on ne peut pas arriver et dire si oui ou non ce fut le cas, mais sûrement, si la personne se donne la peine de raconter, de partager avec nous, c'est qu'il y a sûrement une certaine réalité pour la personne en question.
Tout à fait. Alors, je vous parlais tout à l'heure des sessions là, qu'on faisait pour la dissolution des implants non physiques, donc les mercredis. Et alors, il y a Margaret qui, justement, qui va reprendre la conduite de ces sessions. Et Margaret, en fait, moi, ce que j'ai découvert récemment, c'est que tu accepterais de prendre la parole. Tu avais toi-même une expérience, en fait, dans le domaine. Est-ce que tu serais prête à la partager avec nous ce soir?
Oui, bonsoir, Hervé. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà?
Oui, on t'entend bien.
Alors, je vais partager. Alors, c'est un petit peu différent de ce qui a été raconté par Louise. Et en même temps, il y a des choses qui se rapprochent parce qu'on a à peu près le même âge. Moi, c'est passé en... Alors, j'ai du mal à situer. Je sais où j'étais, dans quel lieu je vivais. Donc, c'est entre mi-97 jusque peut-être début 99. J'ai pas noté à ce moment-là quand ça s'est passé. C'était en fait, ça s'est passé pendant plusieurs nuits, donc plus ou moins dans le sommeil. Alors, il faut savoir aussi que j'avais fait une sortie de corps en 85. Et cette sortie de corps, quand j'étais revenue, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps et ça m'avait fait peur. Donc, deux fois comme ça en 85. Et donc, ces trois nuits en suivant, parce que pour moi, c'est trois nuits. Donc, j'habitais en Allemagne à cette époque-là. La première nuit, donc je vais me coucher et puis à un moment, je me réveille dans mon sommeil et je me retrouve en haut d'une armoire. On avait une grande, grande armoire dans la chambre et je me retrouve en haut de cette armoire. Je me suis dit, tiens, je refais une sortie de corps. Donc, surtout, ne te retourne pas parce que tu vas avoir peur et tu vas revenir dans ton corps. Donc, laisse-toi aller. Voilà, c'est cette sensation que j'ai. Et donc, je me sens emmenée, passer à travers le plafond, on habitait dans une résidence au dernier étage. Et puis, je me sens emmenée comme ça. Et puis, quand je me réveille, je me retrouve dans mon lit de nouveau, mais avec une sensation de peur, de pas me sentir à l'aise. Et puis, ça, c'est la première nuit. La deuxième nuit, pareil, de nouveau la même chose. Et toujours, quand je rouvre de nouveau les yeux, je me retrouve dans mon lit. Je suis allongée et puis, mais avec une sensation toujours de peur, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, la troisième nuit, quand je vais me coucher, je n'ai pas trop envie d'aller me coucher, mais à un moment, il faut quand même aller se reposer. Et là, de nouveau, pareil. Et puis là, quand j'ouvre de nouveau les yeux, ce n'est plus du tout la même chose. C'est que là, je ne suis pas du tout dans mon lit. J'ai l'impression, en fait, je me réveille. Et j'ouvre les yeux, donc là j'arrive à ouvrir les yeux, mais je n'arrive pas du tout à bouger. Je peux pas bouger le corps et je sens en fait des douleurs immenses dans mon corps et je sens qu'on me pique de partout dans mon corps. Donc j'essaye de parler. Donc à ce moment-là, je ne sais pas si on m'entend ou si j'arrive à parler parce que je sens qu'il y a des personnes autour de moi. Si les personnes ne veulent pas m'écouter et on continue à me piquer dans les jambes, dans les pieds, dans le ventre. Et ça fait affreusement mal, donc je leur demande d'arrêter parce que c'est très, très douloureux. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas ou que je n'arrive pas du tout à parler, que les mots restent, on va dire, dans ma tête. Et puis, je perds connaissance. C'est comme si je perds connaissance. Et à un moment, je me réveille, donc toujours en pensant, en me disant, c'est un rêve, je vais me retrouver dans mon lit. Et là, j'ouvre les yeux et je me sens mieux parce que je ne sens plus qu'on pique, qu'on me fait du mal. Et là, je m'aperçois qu'en fait, je suis un petit peu comme dans un bloc opératoire. Je suis allongée sur une table, comme dans un bloc opératoire. Et la pièce, elle est plus ou moins ronde aussi, dans mon souvenir. Et j'ai quand même un drap sur moi. Mais j'ai l'impression de ne pas savoir bouger. Je sais bouger la tête, par contre. Et là, donc, je regarde sur la gauche, je ne vois rien. Et sur la droite, je vois une autre table. Et sur cette table, il y a aussi une personne. C'est un homme, mais qui dort, qui, pour moi, semble endormi. Et puis, je me demande où je suis. Enfin, je ne sais pas trop. Je me dis, bon, je suis dans un bloc, mais je ne sais pas. Et puis, à ce moment-là, je sens qu'il y a une présence qui arrive près de moi. Et je vois à ce moment-là une très grande aiguille. Et que cette personne, je ne la vois pas, en fait. C'est une personne de petite taille. Hein. Et en fait, ce que je vois sur lui, c'est comme un habit de moine avec une capuche. Et voilà, cette robe de moine qu'on connaît. Et un être de petite taille avec une aiguille immense pour moi qui veut m'enfoncer dans le bras. Et là, je me dis non, je ne vais pas me laisser faire. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que mes deux mains, elles sont plus réactives et j'arrive à prendre le poignet de cet être qui est là et de prendre cette aiguille pour essayer de me défendre. Et à ce moment-là, je sens dans ma main un tout petit poignet. Je me dis, tiens, on dirait un poignet d'enfant. Et j'entends un cri. Et c'est cet être qui crie, mais c'est un cri de bête. Et moi, ça me fait peur. Je crie aussi. Et à ce moment-là, j'ai vu ses pieds et ses chevilles. C'était tout petit. C'était couleur gris. Et des pieds qui n'étaient pas humains. Et à ce moment-là, je crie. Et je crois que j'ai perdu conscience où j'étais. Et quand je me suis réveillée, j'étais de nouveau dans mon lit. Mais avec une peur horrible. Donc, je ne vous dis pas les autres nuits, j'ai eu très, très peur, mais il ne s'est plus rien passé les autres nuits. Alors, je ne sais pas si j'ai de nouveau vécu, parce que pour moi, je l'ai vécu, hein, ce n'était pas un rêve. Hein. Pour m'en souvenir aussi bien, depuis plus de 20 ans. Et je ne sais pas du tout si ensuite ça s'est reproduit, mais que je n'en ai pas conscience. En tout cas, moi, j'ai gardé ça. J'en ai même pas parlé à mon conjoint de l'époque parce que je savais pas ce que j'avais vécu du tout. Je n'osais pas lui parler de ça. Je me disais, il va me prendre pour une folle. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui m'était très, très cher. Et quand je lui ai expliqué ce que j'avais vécu, cette personne, elle m'a écoutée et il n'y avait aucune réaction. Alors, je me suis dit, mais c'est bizarre, elle ne réagit pas à ce que je lui dis. C'est quand même étrange. Et je me suis dit, ben, peut-être que c'est parce que faut pas que j'en parle. Et j'en ai jamais parlé pendant très, très longtemps. J'en ai jamais parlé et je ne savais pas du tout ce que j'avais vécu. Et il y a quelques années, j'ai vu une conférence qui parlait des abductions, chose que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le mot. Et en fait, la personne a expliqué exactement ce que j'avais vécu. En partie, hein. Et je me suis dit, mais comment ils peuvent savoir ça? Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir été la seule à vivre ça. Et donc, je me suis renseignée un petit peu. Et donc, j'ai lu, bien sûr, les livres de Dolores Cannon qui parlaient de beaucoup de choses comme ça. Et je me suis dit, la seule chose à faire, c'est de faire une hypnose régressive pour aller voir ce qui s'est vraiment passé. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et donc, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un parce que je ne voulais pas en fait en parler. Je sais qu'il y avait des personnes qui s'occupaient des choses comme je vous ai relaté. Mais moi, je ne voulais pas être cataloguée. Je ne voulais pas rentrer dans quelque chose et sans savoir vraiment si c'était vrai ce que j'avais vécu ou pas. Donc voilà. Voilà mon histoire dans un premier temps. Voilà.
Merci beaucoup, Margaret, pour ce partage. En fait, tu me rappelles simplement que on a oublié, entre guillemets, de dire qu'est-ce que c'était qu'une abduction pour nos auditeurs et puis pour le public qui nous écoutera justement en différé. Alors, je vais en profiter pour vous poser la question. Comment peut-on définir une abduction? Sentez-vous libre d'intervenir, Margaret, Louise, Cyril?
Alors, dans le cadre de l'abduction, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a toujours un missing time, un temps perdu. Ce qui permet de, en fait, de crédibiliser l'abduction, c'est le temps perdu, le temps qui est passé dans le vaisseau ou dans le cadre d'une abduction astrale.
Mais alors, mais justement, c'est quoi une abduction ? C'est quoi ? C'est le concrètement notre corps est enlevé.
Alors ça peut être astral, ça peut être astral ou ça peut être physique, mais notre corps est téléporté dans un vaisseau ou sur une planète, parce qu'il y a des abductions qui se font aussi sur des planètes, et notre corps est soit examiné dans le vaisseau. Ou en tous les cas, il y a des examens médicaux qui sont faits. Et moi, dans mon cas, moi, c'est une guérison qui a été faite. Dans la plupart des abductions, il y a donc sur la téléportation dans le vaisseau, il y a des examens médicaux qui sont faits avec surtout des analyses de l'appareil génital. Ça c'est très courant dans les abductions, ou en tous les cas sur l'esprit, sur le mental, pour examiner nos capacités télépathiques.
D'accord. Alors, bah, sur la base de ce que tu me dis là, donc j'ai envie de tenter une définition. J'avoue que je n'ai pas regardé le dictionnaire avant. Alors, je vais juste mettre ton micro en muet, Louise, et après, je te laisse parler parce que il y a des retours. Donc c'est un enlèvement donc du corps physique ou astral, peut-être même éthérique. Il doit y avoir des cas peut-être d'abduction éthérique. Donc, le corps est le corps est enlevé en physique ou en énergétique, emmené donc par des entités exogènes dans un vaisseau pour subir des soins ou des examens. En gros, c'est ça une abduction.
Voilà, tout à fait.
Ok, bon, bah, très bien, c'est bien qu'on arrive à le définir. Louise, vas-y, tu souhaitais intervenir, je t'en prie.
Bonjour Cyril, en passant.
Bonjour Louise.
Oui, c'était simplement pour... est-ce qu'il y a des retours sur mon côté ou ça va? Pour le son, c'est bon?
Oui, maintenant c'est bon. C'est juste que ton micro était allumé tout à l'heure et j'avais des retours. Mais là, c'est bon.
Ah, d'accord. Moi, mon... comment je peux dire? Ma définition d'une abduction, d'ailleurs, qui aurait su qu'un jour j'aurais peut-être pu être victime d'une abduction, si on veut, victime ou bien que ce soit par la chance ou la malchance, peu importe. Moi, dans mon cas précis, où est-ce que le bas blesse dans cette abduction? C'est que, non, oui, c'est vrai, j'ai eu un missing time, là, un temps manquant, mais moi, ce qui me chicote, ou si on veut, qui éveille ma curiosité au maximum, c'est que non seulement les abductions seraient possibles selon moi, mais qu'en plus, les gens ou les entités qui font les abductions ne sont pas de notre temps à nous, dans le sens qu'ils peuvent jouer avec le temps. Je pense qu'ils sont hors du temps, parce que moi, vu que j'ai appris que John Lennon avait été assassiné 4 heures avant le fait réel, donc c'est un peu comme un retour vers le futur que j'ai fait, parce que comment j'aurais pu apprendre à 19h15 une information d'une critique, dans le fond, qui aurait peut-être même pu, si j'aurais été consciente de ce qui arrivait, peut-être même sauver la vie de John Lennon. Qui sait si j'aurais eu cette brillance d'esprit à l'époque de dire « Mon Dieu, il est arrivé quelque chose. » Et là, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec les smartphones, on a plein d'informations là, qui nous permettent de voir si oui ou non quelque chose est arrivé qui doit être publicisé. Mais à ce moment-là, ayant appris 4 heures avant le temps que John avait été victime de cet assassinat-là, j'aurais été en mesure de pouvoir agir ou du moins d'interagir. Mais ça me dit que les abductions nous sortent non seulement de notre corps ou bien de notre esprit, mais aussi de notre temps. Parce que, ayant pris cette information, pour moi, c'est clair que ces gens-là jouent avec le temps ou se déplacent dans une dimension qui est complètement différente de la nôtre. Je trouve ça fascinant. Donc, ça donne encore plus, comme on dit, de crème sur la crème glacée concernant les abductions. Donc, imaginez-vous tout ce qui est possible pour ces gens-là. Ils peuvent communiquer avec nous de différentes façons. Et ça expliquerait aussi peut-être le phénomène, vous savez, des apparitions maritales, au niveau des fantômes, au niveau de toutes les expériences paranormales que l'on peut vivre. C'est peut-être eux qui agissent dans notre vie depuis le départ, qui nous font vivre toutes sortes de situations qui sont incompréhensibles et ont tout intérêt à ne pas se dévoiler pour être capable d'assurer la bonne marche de l'humanité. Vous savez, ça va loin, hein, quand on commence à penser et à réfléchir à ce niveau. Donc, moi, je crois que oui, c'est clair qu'il y a des gens qui ont été abductés. Donc, la définition pour moi d'abduction, c'est une réalité quotidienne pour beaucoup de gens. Il faut juste essayer de les comprendre. On n'est pas obligé de les croire, mais de les comprendre, déjà, c'est déjà un grand pas.
Je te remercie. Alors, c'est drôle quand même de voir que ce récit de l'assassinat de John Lennon revient dans ton témoignage, parce qu'il y tient une part importante. Mais permets-moi de poser une question parfaitement idiote. Y a-t-il un rapport entre l'assassinat de John Lennon et ton expérience d'abduction ? Y aurait-il un rapport ? Est-ce que ton inconscient t'aurait donné une information par rapport à ça ?
Je vais te donner une réponse idiote à, comme tu dis, une question idiote. Je n'en ai aucune sapré idée. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Pour moi, cet événement, pourquoi je le mets en surbrillance, c'est que cet événement m'a permis de me rappeler tout simplement de la date à laquelle cet événement est arrivé. Si John Lennon n'aurait pas été assassiné à cette date, eh bien, j'aurais eu beaucoup de difficultés pour me rappeler la date exacte. Oui, le mois, c'est bon. L'année, c'est bon. Mais pour la journée, c'est Richard Lenn, c'est lui qui a fait la recherche, qui m'a dit, écoute, ça n'a pas de sens, ton histoire, parce que M. Lennon a été assassiné à 11 heures. Et là, j'ai fait le rapprochement avec l'information que j'avais eue sur la radio le soir du 8 décembre 80, à l'effet qu'il avait été assassiné à 23 heures et quelques. Donc, l'information, je ne pouvais pas la deviner d'avance. Donc, c'est pour ça que ça explique, selon moi, le fait du saut dans le passé et dans l'avenir dans un même temps. C'est ça que je trouve absolument fascinant. C'est pour ça que je fais beaucoup allusion à l'assassinat, parce que c'est la seule façon pour moi qui a été déterminée la date exacte. Mais outre ça, c'est quand même pas un fait banal. On suit.
Oui, tout à fait. Alors ouais, c'est une espèce de clé pour toi. C'est un petit peu comme voilà, c'est le catalyseur là qui te donne un élément de compréhension majeur dans cette histoire. Alors il y a Cyril qui intervient dans le chat en parallèle. Est-ce que tu vas savoir de quoi on parle, mais est-ce que tu pourrais nous parler de tes enfants ? C'est la question de Cyril. Il y aurait quelque chose en lien avec ton expérience par rapport à tes enfants ? Tu es libre de ne pas en parler. Hein. Si tu penses que cette question est trop personnelle, bien évidemment, tu es libre de ne pas en parler. N'hésite pas à me renvoyer dans mes buts.
Non, il y a pas de souci. Non, il n'y a rien de spécial avec mes enfants. Ils semblent avoir un cheminement tout à fait traditionnel. Honnêtement, non.
Des enfants qui ne seraient pas les tiens. Je rapporte les propos. Peux-tu parler de tes enfants qui ne seraient pas les tiens ? Du coup, Cyril, tu peux prendre la parole, hein, tu es là avec nous, tu as écrit ce message publiquement, mais je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Alors, c'est vrai que... Oui, vas-y.
Alors, j'en parle parce que lorsqu'on a fait le repas ufologique avec Louise, elle avait des doutes sur son enfant qui a été fait après son expérience. et elle voulait pas en parler. Et je me suis permis d'en faire part aujourd'hui et ce soir, parce qu'avec le temps passé, peut-être que Louise aurait pu libérer sa parole. Mais elle nous l'avait évoqué lors du repas ufologique de Nantes. C'est une question très personnelle. Je comprendrais très bien qu'elle ne veuille pas en parler. Mais pour moi, il y a eu une expérience au-delà de l'abduction.
Alors, excuse-nous, Louise. Hein. Excuse-nous. Bon, voilà, c'est venu comme ça. Désolé de parler de ça. Mais en fait, on a évoqué, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais on a déjà évoqué sur cette antenne la notion d'hybride ou d'enfant hybride. D'ailleurs, on a dû l'évoquer avec toi, Cyril, il me semble, ou peut-être même à plusieurs reprises. Moi, j'avais parlé d'une Américaine qui était ambassadrice des enfants hybrides, Bridget Nielsen. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Louise. Je pense que oui, tu as dû en entendre parler. Une dame très intéressante qui dit avoir eu justement des enfants, en fait, avec, on va dire, avec ses gènes mélangés, croisés avec des gènes d'entité exogène. Je ne sais pas, tu connais Bridget Nielsen?
Non, pas du tout, malheureusement. Ce n'est pas un sujet qui était à l'ordre du jour, si on veut, pour moi. Parce que mes enfants, comme je dis, si Cyril a pu croire certaines croyances, en tout cas en ce qui concerne mes enfants, non. Il y a seulement que ma fille qui était avec moi lors de l'expérience, qui, elle, est très mature pour son âge, si on veut. Elle aussi a eu un réveil, si on veut, intellectuel, et puis est très, très autonome dans la vie. Ça en fait peur, là. J'ai l'impression qu'elle a 100 ans, si ce n'est pas plus, mais pourtant, elle a seulement 40 quelques années. En ce qui concerne mes deux autres enfants, non, il n'y a rien qui me laisse sous-entendre ou croire qui pourrait, à moins qu'eux ne m'en aient jamais parlé. Sauf que ma fille, qui, elle, est la plus âgée, fait souvent, quand elle était jeune, faisait souvent des rêves qu'il y avait des gens à l'arrière de la fenêtre dans la maison qui regardaient par la fenêtre, qui la regardaient. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été des années à ne pas faire la relation. Je me suis dit, peut-être que c'est soi-disant... voyeurs, si on veut, à l'arrière de la fenêtre de la maison, étaient peut-être un peu les mêmes personnes que moi j'avais vues au moment où est-ce que j'étais présente avec eux. Donc, il est fort possible que ce soit quelque chose qui soit en relation. Mais outre ce fait, non, j'ai rien de spécial qui pourrait être, qui pourrait faire la similitude entre les... Mais tout est possible, hein, mais... Non, moi, en ce qui me concerne, je vous confirme que je ne peux pas dire autre que ce que je viens de vous dire maintenant.
Très bien, ben merci beaucoup, Louise. Alors, j'appelle les auditeurs, là, donc on est 70 personnes là, donc, sur l'antenne actuellement. Donc, allez-y, venez, profitez-en, posez vos questions, interagissez avec Louise. Bon, elle a vraiment une. Moi, j'aurais pas mal de questions à lui poser. Alors, c'est vrai que cette question des implants, elle est assez incroyable. Ça donnerait envie d'en savoir plus, mais puisque je me souviens justement, on en avait parlé un petit peu avec Cyril lors de l'émission qu'on avait faite avec lui. Bon, alors moi c'est ce sujet-là qui m'interpelle beaucoup, hein, entre autres. Mais alors allez-y, hein, n'hésitez pas, prenez la parole, venez poser vos questions. Alors Jean-Claude, vas-y, tu peux activer le micro.
Oui. Bienvenue. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir une abduction sans être obligé d'aller dans une soucoupe volante, sans être obligé de perdre la notion du temps, et en le vivant dans une expérience de la vie de tous les jours.
Donc la question est pour toi, Louise, ou Cyril, éventuellement, si...
Oui, je pense que c'est tout à fait possible. On appelle ça une abduction astrale ou éthérique. Donc, la plupart du temps, les abductés ne se rendent pas compte ou ne savent pas qu'ils ont été abductés. Il faut faire une hypnose régressive pour en avoir connaissance. Mais il y a du fait du missing time ou de l'oubli de la personne, on peut tout à fait ne avoir que des réminiscences de souvenirs de l'abduction sans qu'elle puisse être éveillée vraiment en soi.
Est-ce que je peux expliquer ce qui m'est arrivé en 5 minutes pour
carrément.
Que vous puissiez me dire si c'était une abduction ou pas?
Vas-y.
Donc, j'ai été appelé par un ami qui fait de la formation sur le magnétisme et il leur fallait un cobaye. Donc j'ai été volontaire pour faire le cobaye et au moment où je me suis mis sur la table de massage, je me suis allongé, je me suis détendu et pendant ce temps-là, les collègues qui étaient avec moi, qui devaient faire le travail, sont allés choisir des pierres parce que c'est un endroit où ils ont des pierres et ils choisissent des pierres pour les mettre autour de moi. Ils ont fait ça pendant un petit moment et moi, à ce moment-là, j'ai senti deux mains qui ont bloqué mes chevilles et j'ai senti une présence derrière ma tête et qui a travaillé sur mon crâne. Donc, le travail s'est fait uniquement au niveau de mon crâne. Je sentais que ça bouillait sans arrêt. C'était comme une marmite d'eau qui bouillait. C'est un peu cette métaphore que j'emploie à chaque fois. Et ça a duré 2 heures. Et pendant 2 heures, j'ai claqué des dents. Et je disais à mes collègues, ne faites rien, je pense qu'on n'est pas seul et on est en train de me faire un soin. Je pensais que c'était un soin. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que vous pensez que c'est une abduction ?
Alors, moi, je pourrais rajouter que souvent, on a l'impression que les abductions, c'est des prélèvements d'organes ou des prélèvements de sperme ou autre. Mais je confirme les propos de Jean-Claude, ça peut être des soins. Tout dépend quelle entité exogène fait l'abduction. Si c'est des pléiadiens ou des arthuriens, dans ces cas-là, c'est souvent des soins qui sont prodigués et rarement des prélèvements d'organes.
Merci beaucoup.
Louise, éventuellement, une réaction par rapport au témoignage de Jean-Claude ?
Moi, ce qui me concerne, je constate que Jean-Claude n'est sûrement pas à remettre en doute pour ce qu'il a vécu. Mais ce qui relève un peu mon intérêt, c'est le fait de vouloir participer à une expérience sur le magnétisme. Je me demande si cela n'aurait pas une certaine relation. Peut-être que Cyril le saurait plus.
Alors, moi, je... Excuse-moi, Cyril. Ouais. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que bon, c'est... l'ufologie n'est pas ma spécialité, mais par contre, j'ai pas mal d'expérience en énergétique. Et je pense qu'effectivement, on peut être amené à recevoir des soins d'entités qui ne sont pas dans le plan physique, hein, qui peuvent être dans le plan éthérique ou astral. Voire même au-delà, mais sans pour autant quitter son corps, sans pour autant d'ailleurs que notre corps, que nos corps subtils se désolidarisent du corps physique. Et par rapport justement à la tentative de définition qu'on a faite tout à l'heure de l'abduction, moi j'aurais pas envie de qualifier justement l'expérience de Jean-Claude comme une expérience d'abduction. Pour moi, c'est une expérience de soins énergétiques réalisés par des êtres, alors je sais pas lesquels. Mais il y a pas d'enlèvement, il y a pas le corps astral ou le corps physique ou le corps éthérique a priori n'a pas été enlevé, ou alors j'ai pas bien compris. Mais par contre, on sait quand il y a des thérapeutes énergéticiens, il y en a qui le font intentionnellement, hein, qui aiment bien avoir de l'aide, ça c'est à leur risque et péril, hein, qui participent de cette aide, qui bénéficient de cette aide et qui donnent quelque part leur pouvoir à des entités plus subtiles. Pour que ces soins énergétiques se passent avec des entités plus subtiles. Donc moi dans ton cas, Jean-Claude, j'aurais pas tendance à parler d'abduction parce qu'il n'y a pas eu enlèvement à proprement parler. C'est plus tout simplement des soins énergétiques avec des entités qui sont pas dans le plan matériel.
Donc moi, ça confirme ce que je voulais savoir, c'est que l'abduction, c'est un enlèvement en fait.
Pour moi, la base de l'abduction, c'est qu'il y a quand même cette notion d'enlèvement. Il y avait une personne qui le disait tout à l'heure, pour dire les choses de façon très, on va dire, très simple, abduction égale enlèvement extraterrestre. Mais bon, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais pour moi, la notion d'enlèvement, elle est majeure. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, si on revient à l'expérience de Louise, là, cette histoire d'autoroute, là, de fausse autoroute éclairée par une lumière bleutée de LED bleu, et puis sans aucune voiture, avec des ponts là, réguliers, c'est un petit peu comme un film qu'on lui a joué pour justement essayer d'effacer la mémoire qu'elle avait de cette abduction. En fait, on l'a mis dans une espèce de film. On a trafiqué ses souvenirs pour pas qu'elle se souvienne justement de ce qui s'est passé réellement pendant cet enlèvement. Moi, c'est comme ça que j'ai compris l'expérience de Louise.
C'est comme ça qu'ils font la plupart des abductions. C'est pour effacer la mémoire des abductés.
Louise, est-ce que c'est bien ta compréhension des choses, en fait, ce film qu'on t'a joué là sur cette autoroute mystérieuse, c'était ça, c'était pour effacer le souvenir de l'abduction?
Lorsqu'on a une opération, lorsqu'on subit une chirurgie, on ne se souvient pas de ce qui est arrivé durant la chirurgie. J'ai été opéré à deux reprises et je ne me souviens pas du tout entre le moment où j'ai perdu la carte et le moment où je suis revenu à moi dans la salle de réveil. Donc, il y a quelque chose de spécial dans l'abduction qui n'est pas comme ce qu'on peut dire une perte de conscience. Moi, je crois qu'il nous n'enlève pas la conscience. La conscience, il y a plusieurs niveaux, selon moi. Et ceux qui veulent nous occulter sont vraiment... Parce que j'imagine que, jusqu'à un certain point, si on n'est pas d'accord avec le fait qu'ils nous prennent l'information ou qu'ils procèdent à certaines analyses, il faut qu'on soit d'accord après ma barre. Donc, il faut déjà avoir une certaine ouverture d'esprit, il faut déjà être disposé à subir cela. Moi, c'est comme ça que je le prends. Au même titre qu'une opération en tant qu'être humain, lorsqu'on subit l'opération, mais souvent c'est par dépit, on n'a pas le choix, parce que sinon on ne va pas guérir, sinon on va être plus malade. Tandis que dans le cas d'une abduction extraterrestre, il n'y a pas de douleur en tant que telle, il n'y a pas le besoin de se faire abducter. Donc, ils doivent à la base, j'imagine, prendre des personnes saines d'esprit, mais saines de corps. Parce que souvent, on regardera les abductés, on se comprend sans aller dans les détails, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vois que l'abduction est à un autre niveau. Ce n'est pas proprement dit un enlèvement, selon moi. Je pense qu'on collabore à cet enlèvement. Et c'est pour ça qu'on garde un souvenir du dit enlèvement. Ça, c'est mon opinion. Je peux me tromper, mais c'est mon opinion.
Ah, c'est super intéressant. Là, tu as introduit la notion du consentement, mais du consentement qui n'est pas forcément conscient, quelque part, presque un consentement tacite, parce que tu n'as pas conscience de ce qui va se passer au moment où peut-être tu donnes ton accord. Moi, j'aurais quand même envie de poser la question, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais cette notion de bienveillance ou de malveillance. Alors, on sent à travers ton récit, Louise, que toi, tu sens quelque chose de bienveillant derrière cette expérience. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Et est-ce que justement l'abduction est bienveillante ou est-ce qu'elle est malveillante? Sachant qu'en général, on a plutôt un a priori, quand on parle d'abduction, on a plutôt un a priori de quelque chose de malveillant. Cyril parlait tout à l'heure de prendre des organes, enfin, il ne s'agit pas de ça. Mais il y a quand même une petite connotation un peu malveillante, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que je peux intervenir?
Mais bien sûr.
En fait, Dolores Cannon parle de ce cas-là dans ses patients qui, en fait, redécouvrent lors de l'hypnose quantique qu'en fait, ils arrivent d'une autre planète ils se sont réincarnés en humains, mais avant de se réincarner, ils avaient donné leur accord aux gens de la planète dont ils venaient pour faire certaines choses pendant qu'ils seraient sur Terre, dont certaines études sur les humains, donc mettre des implants pour pouvoir étudier différentes choses chez l'humain. Donc les implants sont pas aux mêmes endroits en fonction des choses qu'on veut suivre. Et donc ces personnes découvrent l'ordre de l'hypnose quantique. En fait, ils avaient donné leur accord parce qu'ils étaient comme eux.
Alors, c'est super intéressant, permets-moi de reformuler un petit peu différemment. C'est un petit peu comme si c'était, par exemple, une âme d'une société galactique X qui accepte de partir en mission justement sur Terre, de venir s'incarner sur Terre, et en échange de quoi, elle donne, je dirais, d'avance son consentement à ses congénères, ses galactiques X, pour que pendant son expérience terrestre, ils pourront l'examiner, l'analyser et éventuellement l'abducter. C'est un petit peu ça que tu dis?
Oui, oui, c'est tout à fait ça.
C'est comme très intéressant.
Mais il y en a qui reviennent sur Terre et qui, la nuit, font certaines missions dont ils n'ont pas toujours, effectivement, ils ne s'en rappellent pas quand ils se lèvent le matin, mais sous hypnose quantique, ils font des choses. Je ne sais pas, je me rappelle d'une fille qui s'occupait de bébés hybrides la nuit, c'était son boulot, elle allait faire ça. J'ai lu beaucoup de livres de Dolores, donc je ne sais plus dans lequel. Mais elle a beaucoup de témoignages par rapport à ça, de dons d'abduction, je dirais, bienveillante, collaborative.
Intéressant. Ouais, on attend ta réaction, Louise.
Oui, je crois que c'est un point très important concernant. Il y a une information, moi, qui m'avait, ça m'a passé, ça passait un peu dans l'oubli, là, mais là, maintenant que Lucie en parle. Le monsieur qui m'a fait l'hypnose régressive m'a dit que je répétais souvent que j'étais un âme éclairante. Parce qu'il m'a donné quand même quelques informations sur ce que je disais. Il y avait des mots qui étaient compréhensibles, d'autres qui étaient vraiment là, inaudibles. Mais souvent, j'ai répété à plusieurs reprises que j'étais une éclaireuse, une éclairante au niveau de l'âme. Et depuis ce temps-là, on dirait que je me considère un petit peu comme une sauveuse d'âme. C'est bizarre, non? Un peu comme feeling, mais c'est ce que je ressens. Et chaque fois que je vois des gens malheureux, j'ai tendance à leur dire, ne t'inquiète pas, il va sûrement y avoir quelque chose de positif dans ta vie. Puis on dirait qu'à chaque fois que j'ai fait ça avec un individu, sa vie s'est améliorée. Bon, est-ce que c'est simplement le fait de motiver la personne? Je ne sais pas. Et on dirait aussi que je préviens toujours les coups. Les coups, on dirait que je les vois d'avance, que ce soit autant la mode, que ce soit les grandes, si on veut, situations qui arrivent dans le monde, un peu comme la pandémie, je l'avais vu venir un peu, parce qu'à l'époque, je me souviens que j'avais parlé de 40 années. Et 40 années, si on considère 1980, ça nous amène à 2020. C'est l'année de cette soi-disant pandémie qui est arrivée. Et je pense que Lucie a amené un point important. Je crois qu'elle a raison. Il y a peut-être quelque chose qui fait en sorte que certaines personnes sont abductées, d'autres ne le sont pas. C'est mon opinion.
Ouais, c'est super intéressant. Je vous propose de prendre les dernières questions, là, si vous en avez, ou dernières remarques, réactions, avant de fermer justement cette phase enregistrée. Margaret, tu voulais parler?
Oui, je voulais parler justement par rapport à ce qui avait été dit juste avant. Pour moi, enfin, ce que Lucie a dit, effectivement, je l'avais lu. Moi, je ne l'ai pas vécu du tout comme ça. Moi, je ne pense pas du tout, et c'est ce que j'ai vu après en hypnose, mais je ne pense pas que c'était un contrat entre ces êtres et moi, pas du tout. Moi, ce que j'ai vu en hypnose, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais apparemment, ils m'auraient enlevé un implant qu'ils avaient placé il y a très très longtemps et qu'ils ont récupéré pour avoir des informations parce qu'ils savaient que je commençais à m'éveiller et qu'ils n'auraient pas pu récupérer ensuite cet implant. Et en fait, ils voulaient récupérer ce que moi j'ai compris, cet implant pour avoir certaines informations sur, on va dire, sur des êtres, sur un peuple auquel j'aurais appartenu il y a très très longtemps. C'est ce que j'ai vu moi. Donc pour moi, il n'y avait pas du tout de lien entre eux et moi. C'était plus. Non, pour moi, il n'y avait pas de lien entre eux et moi.
Cet implant, il était non physique ou il était éthérique, astral? Tu as une idée de la nature de cet implant?
Oui, non, il n'était pas physique, hein, puisqu'il avait été mis, on va dire, sur un autre plan et dans une autre incarnation. Donc, il était, moi, pour moi, éthérique, quelque chose qui était là encore avec moi et qui voulait absolument récupérer pour avoir ces informations sur ce peuple. Et comme j'avais aucune. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, ça prendrait trop de temps à expliquer. Donc, ils ont récupéré cet implant, ils ont fait certaines expériences, ça je l'ai vu, hein, mais il n'y avait aucun accord entre eux et moi, pas du tout. Enfin, pour moi, non. Hein.
Pour répondre à ce que tu viens de dire, tu as le livre de Helena Danahan, qui a écrit un livre sur les extraterrestres. Elle a été en fait enlevée quand elle était petite. Par des méchants et qui lui ont installé je pense qu'ils voulaient la faire ils voulaient utiliser son corps pour la reproduction et elle a été sauvée par des pléiadiens et depuis elle garde le contact avec le fameux pléiadien qui l'a sauvée de ces méchants extraterrestres. Et donc son témoignage est intéressant, elle a écrit un livre qui est intéressant. Alors, je sais qu'il y a des gens qui la trouvent un peu bizarre, mais son expérience est intéressante.
D'accord, oui, je n'ai jamais lu son livre, donc je ne peux pas te dire. Oui. Ouais.
Alors après, si on regarde tout ça sur fond de guerre galactique entre justement des êtres bienveillants et des êtres malveillants, ça complexifie encore de plusieurs dimensions la compréhension des choses potentiellement. Ben ça, c'est notre vision, hein. Louise, justement, moi je te l'ai dit, hein, quand on s'était parlé, nous là, les personnes en fait qui écoutent Radio Pléiade, écoutent aussi suivent beaucoup la personne qu'on appelle le contacté Cobra, qui lui est un contacté pléiadien qui donne beaucoup d'informations très intéressantes. Et en fait, donc dans notre grille de lecture, on est sur un fond de guerre galactique entre être bienveillant et être malveillant, que la Terre serait le dernier bastion justement d'êtres malveillants qui tentent de nous maintenir sous leur coupe, mais que justement il y a des galactiques bienveillants qui eux essayent de nous délivrer de cette situation de prisonniers sur la Terre. Donc ça voilà, c'est donc moi si on met tout ce qui a été raconté ce soir dans ce prisme, cette grille de lecture justement de guerre galactique, je trouve ça super intéressant. Et tu as dit quelque chose à un moment, je ne sais pas si les auditeurs l'ont relevé, mais tu as souligné qu'il y a un message qui t'avait été donné comme quoi maintenant, cette espèce de fin des temps qu'on vit, pour les personnes éveillées, elles le vivront comme quelque chose d'extraordinaire et les autres comme un grand malheur. Enfin, rappelle-nous ça. On est passé trop vite là-dessus et c'était un élément très important de ton témoignage, Louise.
Oh, simplement, Hervé, c'est que j'avais mentionné que selon M. Drouin, j'avais mentionné ce fait-là parce qu'il y a quand même des choses qui avaient été notées de sa part. Et il me disait que lorsque j'avais un aspect d'effroi dans le visage, et par la suite un visage quasi angélique, si on veut, c'était peut-être un peu poussé, là, mais avec un effet de béatitude, c'est que c'était suite à des paroles comme ça. Exemple que pour les gens qui vivent sur notre planète, que 80, ben pas 80, moi je l'ai établi comme 80-20, mais pour une majorité, là, en calcul, c'est comme ça qu'on dit, mais que la grande majorité, qu'une grande majorité, ce serait horrible. Le mot, il est pesant, là, il fait foi, là. Ce serait horrible pour la grande majorité, mais merveilleux, c'est tout le contraire pour une petite minorité. Maintenant, Pourquoi est-ce que c'est au niveau de la pensée, de l'éveil? Ça, je ne sais pas. Mais je leur ai dit cette information-là. Et moi, si ça a été un enlèvement, je n'ai gardé, selon moi, que des beaux souvenirs. Je n'ai pas senti de malin, si on veut, ou de quelque chose de négatif. Au contraire, aujourd'hui, je réalise que j'étais une femme différente, complètement différente de beaucoup de femmes. Et je m'en rends compte parce que mes copines me le disent. J'ai demeuré une personne, un phare dans la nuit pour beaucoup de gens. J'ai été une conseillère sur plein d'aspects de la vie. Donc, je me considère riche depuis cet événement qui m'a, moi, donné un éveil. Parce qu'avant 20 ans, je vous l'ai dit, j'étais fofolle. Et maintenant, c'est tout le contraire. Donc, il y a une compréhension de la vie qui, quelquefois, j'essaie de partager avec d'autres, qui, après ma barre, ne semble pas comprendre. Et tout à coup, 2, 3, 4 années par la suite, ils disent, écoute, tu avais raison. C'était vraiment ça qui était pour arriver. Je disais, c'est clair. C'est écrit dans le ciel que ça va arriver. Puis, on n'a pas besoin d'aller dans l'espace pour trouver des êtres malveillants. Regardez ce qu'on vit actuellement sur la planète, que ça n'a absolument aucun sens. Sans entrer dans les détails, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se produit actuellement et je le dis et je le crie à tue-tête. Il faut cesser ce qui se produit actuellement. Si on ne le fait pas, ça va dégringoler et ça va être de pire en pire. Fait que là-dessus, c'était simplement les dernières paroles que je pourrais vous rajouter. Mais n'oubliez jamais que s'il y a quelque chose qui vous arrive, le hasard n'est pas là. Moi, je crois que le hasard n'existe pas. Ce qui arrive, le fait que je parle ce soir au radio avec toi, Hervé, avec les gens qui nous écoutent, que Cyril ait pensé à moi, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens lors de nos 33 soupers expérientiels qui ont été pour moi un grand éveil aussi. De voir qu'il y a des gens autour de nous qui vivent des situations qui jamais, jamais, jamais vont oser en parler, mais que là, tout à coup, à cause que la table était mise, ils se sont mis à parler. Il y avait des pleurs, il y avait des cris, il y avait de la colère, et j'ai dû gérer tout ça, moi, lorsque j'ai fait les soupers avec les gens qui ont participé. Donc, là-dessus, c'est un peu le mot de la fin pour moi.
Mais c'est même carrément le mot de la fin, et... Je te remercie infiniment, Louise, pour ton témoignage et pour ces plus de 2 heures passées ensemble. Et merci aux auditeurs qui ont bien voulu aussi témoigner et partager leur expérience. Donc, je vais couper l'enregistrement, hein, comme on fait habituellement. Et je ne sais pas si tu pourras rester encore quelques minutes avec nous, Louise. On a ce qu'on appelle un after, après la fin de l'enregistrement, où les personnes qui sont toujours là ont la possibilité de continuer à intervenir ou poser des questions, mais cette fois-ci de façon non enregistrée. Donc voilà, c'est la parole est plus déliée de cette façon pour ceux qui ont du mal à prendre la parole en public. Quoi qu'il en soit, donc merci infiniment, Louise. Merci à tous ceux qui ont participé à cette Radio Pléiade. Personnellement, moi j'ai adoré. Ça m'a ouvert des nouvelles perspectives encore de compréhension et de connexion entre les différents sujets galactique ou énergétique que l'on traite d'une façon générale. Donc voilà, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance, Louise.
Eh bien, ce fut un plaisir partagé. Malheureusement, moi, je vais devoir vous quitter. Mais si un jour vous voulez me réinviter, ça me fera plaisir si mes disponibilités me le permettent.
D'accord, ben super, ben très bien. Ok, ben je retiens. Merci beaucoup à toi et je termine de ce pas l'enregistrement et bonne soirée à tous pour ceux qui partent et pour ceux qui peuvent rester pour échanger encore sur ce sujet. Donc, sans Louise, vous pouvez rester encore sur l'after. Donc voilà, bonne soirée à tout le monde et un grand merci à tous les participants.
Salutations à tous.